Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, salut! Merci d'avoir lancé cet épisode. C'est mon dernier épisode enregistré en Belgique avant un moment. J'aurais aimé en enregistrer beaucoup d'autres parce qu'il y a beaucoup de talent sur la scène belge, mais je le ferai à mon retour. Au moment de la sortie de l'épisode, ça y est, je dois être arrivé dans mon Airbnb de Montréal parce que j'ai décidé de faire une pause carrière pour partir plusieurs mois à Montréal pour essayer de faire un maximum de scènes là-bas et suivre des cours du soir à l'École nationale de l'humour, ce qui est mon rêve depuis que j'ai 16 ans, je crois. Donc voilà, le rêve s'accomplit enfin. J'espère pouvoir continuer le podcast à Montréal, mais il va falloir un petit temps d'adaptation. Faut que je trouve un boulot, faut que je trouve un logement. J'aimerais bien faire quelques scènes aussi pour me déstresser, mais ça va aller. Mais j'ai en tout cas envie que le podcast dure dans le temps. J'espère réussir à interviewer tous les humoristes québécois que j'adore. Mais voilà, on va essayer de trouver le temps de le faire. Pour m'aider, pour faire en sorte que le podcast soit découvert par plus de monde, bah tu peux t'abonner au podcast, tu peux le commenter, le partager, mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, ou encore le financer via Patreon ou via un virement. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et pour suivre mes aventures en stand-up et à Montréal, rejoins-moi sur Instagram, Régis Canon, humoriste. Enfin, avant de te laisser avec Nikos et Juan, en fin d'épisode, on donne un mot à indiquer en commentaire sur YouTube ou via MP si tu veux m'envoyer un message pour voir qui sont les fidèles auditeurs qui écoutent jusqu'au bout. Est-ce que tu en fais partie? Si oui, bah tu vas devoir m'envoyer un petit message. Allez, bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois Nikos et Juan. Comment ça va?
Ça va.
Ça va.
Ça va.
Ça va.
Ça va.
Ouais.
Pour commencer cet épisode, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez présenter l'autre? Quel type d'humoriste il est? Comment
je
il est avant?
Ce genre de truc. Oui.
Donc, quel type d'humoriste il est? Comment il est avant une scène? Comment il est sur scène? Quel genre d'humour il a? Qu'est-ce qu'il aime aborder? Allez-y, dites-moi.
En même temps?
Peut-être pas en même temps. Pas chacun son tour.
Personne va nous entendre.
J'ai pas donné la consigne au départ de pas parler en même temps parce que je trouvais ça logique.
Ok. Il y a des trucs logiques, d'accord. C'est pour savoir. Attends, du coup, donc on décrit le type. Enfin, je suis décrit à la personne pour les gens.
Wow, les consignes sont hyper simples.
C'est ça. Ok. D'accord. Non, parce qu'après il a donné plein de détails de quoi.
C'était des idées.
D'accord, pour nourrir l'inspiration.
Il alimente.
Écoute, ici à ma gauche, on a un petit Juan Rodriguez.
Rodriguez.
Avec un S. Parce qu'il n'est pas
espagnol.
Espagnol, c'est ça. Bah écoute, on a. Ça fait combien? T'as commencé quand toi?
J'ai commencé en septembre de l'année passée. Donc vraiment, on a aucune légitimité d'être ici.
Le plaisir déjà. On a un humoriste qui. Pas qui se lance parce que t'as passé l'étape de se lancer. Enfin, si, ça t'a pas en fait. Non, t'as quand même dépassé l'étape de se lancer. Donc un humoriste qui émerge. En tout cas, qui se démarque par son aisance sur scène et ses impros, beaucoup de qualité sur tes impros de manière générale dans le milieu. Et moi, je trouve que c'est quelqu'un qui quand même a la conscience de travailler qui a vu ce travail directement comme un travail et qui a su déjà qu'il fallait aller la constance d'écriture, de répéter, de comprendre comment ça fonctionnait tout, de voir les mécanismes de l'humour. Donc, je pense que sur ça, Juan, il a réussi à prendre un peu d'avance, tu sais, parce que il a vite compris comment ça fonctionnait. Et maintenant, il joue avec des règles, tu vois. Et en plus de ça, à côté, c'est comme quelqu'un qui entreprend beaucoup. Donc non seulement il est sur scène, mais c'est aussi lui qui va créer les opportunités pour lui et pour les autres. Et donc c'est quand même un chouette truc, et ça manquait un peu de ça à Bruxelles.
Et comment est Nikos?
Il est stylé. C'est vrai qu'il est stylé, il est extrêmement stylé. Nikos, il est gentil, mais pas au sens péjoratif du terme. Il est vraiment gentil. Je pense que il s'entend bien avec tout le monde. Je crois. Il s'entend avec tout le monde.
Il y a une personne à qui je m'entends pas.
C'est vrai.
Mais je le dirai pas.
Si.
Je sais pas.
Moi
pas,
non plus.
J'ai pas de
nom. Non, il en fait déjà depuis plus longtemps, Nikos. Ça fait déjà quasi 5 ans, bientôt, 4 ans, 4-5 ans, 3-4, parce que tu comptes le Covid dedans.
Je veux le Covid dedans.
Ok, donc 3 ans pur et 1 an de Covid.
En fait, j'aime pas quand ça fait trop longtemps, parce que je suis pas assez bon.
Non, il est pas du tout éclaté, en vrai. Je pense qu'à Bruxelles, il est assez, assez respecté. Je crois que depuis peu, il se met vraiment à travailler, je crois. Mm-hmm. Il considère vraiment depuis peu, depuis qu'il se rend compte que bientôt c'est fini les études, et bientôt il va falloir en vivre, quoi. Donc, il commence à vraiment travailler. Je pense que c'est un humoriste jovial. Voilà, adjectif, c'est un humoriste jovial.
Sur montée de spectacle.
Sur scène, ça, c'est jovial. La jovialité est un adjectif descriptif qui te convient, et c'est aussi une personne qui entreprend, parce qu'on entreprend beaucoup à deux.
C'est vrai.
Voilà.
Et comment il est avant une scène? Stressé.
Stressé parce que il pense qu'il est nul. Tout le temps.
Ouais, je m'imagine bidé tout le temps.
Ouais.
Ok, ouais.
Mais il pense qu'il est éclaté. Genre, il m'envoie des messages.
Même team.
Non, mais vraiment, genre, à un point, il va faire un set qui marche, mais il t'envoie des messages, ouais, mais il n'y a pas de blague là-dedans. Alors que ça a déjà marché.
Ça fait 2 ans que je le fais.
Et il marche, tu sais. Et vraiment, pas beaucoup de confiance en lui pour ça. Et quand il sort de scène, parfois, un excès de confiance, mais qui se calme très très vite.
C'est quoi, une fois, c'est lui qui était présentateur à Namur. Et tu sais, c'est une soirée, c'était pas... Enfin si, c'était cool, mais...
C'était gentil.
Et puis, je fais un show de passage où moi, je kiffe et tout. Et bref, moi, j'avais un bon ressenti de la scène, tu vois. Du coup, en passant et en checkant le MC quand il revient, je lui fais juste... c'est comme ça qu'on fait une masterclass, ou genre, vous prenez des notes, ou juste une page là, et j'adore faire ça.
Mais je pense que ça s'est passé, c'était moi, je pense que t'aurais pas fait ça avec quelqu'un d'autre.
Non.
Ou alors tu passes pour le gars le plus humble du monde.
Non, si tu connais le présentateur, c'est rigolo, si tu connais pas, c'est vraiment se déplacer presque.
Non, je n'ai jamais entendu que tu disais ça après une scène, sinon tu ne serais pas dans le podcast, je me serais dit, oula, ok, le boulard en fait.
Le mec qui sort en mode, ouais, j'en bats les couilles, non, avec les poteaux, c'est rigolo.
Mais je suis comme toi niveau confiance en mon passage.
Ouais.
Plus la scène approche, plus le moment de monter sur scène approche, moins je suis confiant dans ce que je fais.
Ah ouais, je me rappelle de toi avant le 1 minute 30 What the Fun où t'étais
moi,
liquide.
Bah oui, bah, toujours.
Ah, c'est fluide.
Peu importe la durée de monter sur scène. C'est comme pour la minute 30, tout le monde me disait ouais, mais c'est 1 minute 30, pourquoi tu te stresses pour ça? Je lui disais, mais je dois te présenter après et ça me stresse.
C'est quoi la plus longue, le plus longtemps que t'as fait sur scène?
1h15.
1h15?
Mais j'ai fait c'était un soir où je jouais à un spectacle. Vraiment, j'avais fait 1h15. Mais je l'ai fait sur la journée, je l'ai joué 4 fois avant, quoi. Pour me détendre, pour l'avoir bien truc, mais je l'ai
Et t'étais pas détendu?
Non, du tout.
Moi, j'ai l'impression que
plus que si je l'avais pas fait.
Moi, j'ai l'impression que plus t'attends, plus tu stresses.
Ouais, en fait, faut essayer d'être occupé un peu avant, ou alors tu te prépares, parce que si
Non, même si t'es préparé, je trouve que plus j'attends, plus je stresse.
Ah oui.
J'aime bien, t'es genre, arriver, jouer, et c'est cool.
Ah, mais moi, c'est l'inverse. C'est quand j'arrive avant, je me dis, ah, ok, le micro, il est là, la scène, elle est là, le micro, tu vois, par exemple, c'était le même micro avec lequel j'allais jouer, ok, il faut le tenir comme ça, tel bruit il fait, tu vois. Okay. Je m'habitue un petit peu à la scène, l'emplacement du truc, ça me rassure, en fait.
Ah, okay.
Donc, souvent, j'aime bien venir avant, des fois, trop tôt, clairement, parce que, mais après, le stress monte.
C'est demain, Régis, ton spectacle, oui.
mais ça me rassure. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Est-ce que vous consommez des podcasts?
Moi pas assez en vrai. J'aime bien l'idée. En fait, c'est dès que tu sais, c'est genre truc, dès que je le fais, je kiffe. Et par contre, après, j'oublie tout le temps de le faire, ou la démarche pour le moment où je pense à le faire et le faire, c'est trop long.
Okay.
Toi, genre c'est trop dur de. Enfin, j'ai pas l'habitude vraiment de prendre mon tel, aller chercher un podcast machin et puis le mettre. Et toute cette partie-là, elle me prend trop de temps et du coup, je la fais jamais. Alors que pourtant, quand je l'ai fait, je kiffe, tu vois. Comme le sport.
Moi, j'écoute des podcasts. Il y a un moment donné dans ma vie où j'écoutais beaucoup de podcasts. C'est genre Culture 2000, 2 heures de perdu, des trucs comme ça, assez mainstream dans la culture podcast. Et puis, depuis que je fais du stand-up, je crois que j'ai bouffé énormément de podcasts de stand-up, quoi. Genre tous les Cafés Holocet, tous les podcasts de Kian, tous les podcasts quasi, à part vraiment quand l'invité m'intéresse moins.
Lequel?
Alors... Celui-ci, par exemple, je ne l'aurais pas écouté.
Celui-ci, je ne l'écouterais pas. Voilà.
Celui-ci, je ne l'écouterais pas, d'ailleurs, si vous êtes toujours là. Non, ouais, je consomme quand même du podcast parce que je fais, comme toi, en fait, je fais de la route. Et du coup, quand je vais au taf, et puis voilà, j'aime bien avoir un truc dans les oreilles quand je taf, quand je fais les tâches ménagères, machin. Par contre, je ne comprends pas les gens qui écoutent des podcasts en faisant du sport. Je ne comprends pas.
Non, ça, je comprends. Ah, pas.
Mais quoi que si, courir.
Non.
Courir, ça pourrait.
Non, trottiner.
Trottiner, oui.
Si tu fais une longue sortie, genre d'une heure, au calme. Mais si tu vas courir pour courir, genre en mode faire un effort, ah non, frère. Écouter un connard te dire. Non, laisse tomber.
Ouais. Sur du vélo elliptique, genre de truc, ça passe. Parce que y a aucune réflexion à faire, tu vois. Ouais.
Déjà, pourquoi tu fais du vélo elliptique? C'est la première question.
Parce que j'ai mal au coude, donc je peux plus faire ça. Ouais, je peux plus rien faire comme sport. Enfin, je peux rien faire qui implique les bras. Ce qui limite fameusement le sport. Surtout quand tu faisais du crossfit de départ, ça limite énormément les mouvements. Mais voilà.
Tu fais des squats.
Ouais, mais que des squats sans poids. Ce qui est chiant parce que je peux pas tenir la barre. Pour te dire. Pour là, c'est très imagé pour les gens qui font du crossfit, mais tu tiens la barre avec tes mains derrière.
Je réfléchis à quel truc. Ah bah, courir quoi.
Ouais, c'est courir. Ça, mais je déteste ça.
Courir, ouais, c'est compliqué.
Enfin voilà. C'est
la natation, tu peux pas, genre, c'est pas.
Non, ça fait mal aussi.
Ah, vraiment, la natation, tu coules aussi. Si t'as pas ou alors tu prends une planche qui flotte, tu vois, et tu la tiens avec tes bras et juste avec tes pieds, tu bats.
Ouais, c'est pas l'éclatombe.
On change le podcast, on fait.
C'est le podcast. <sur l'autre.
rire> Comment faire du sport sans bras. C'est hyper précis comme podcast.
Ben voilà, ça c'était la petite parenthèse au sport. Juan, j'ai vu que ce 25 août, tu jouais un 3x20 avec Jules Degrave et Sarah Lélé au Kings of Comedy Club. Le podcast sera déjà sorti à ce moment-là, mais t'as déjà fait des passages de 20 minutes. Est-ce que tu commences à penser au format 1 heure ou pas encore?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Vraiment, je suis dans une autre approche un peu. Je suis dans une approche où j'ai envie d'écrire beaucoup pour jouer beaucoup. Mais pas dans l'objectif de créer un format long, en fait, surtout dans l'objectif de devenir meilleur. Donc là, 20 minutes, c'est déjà une belle durée, en fait. En Belgique, on a un peu normalisé le 12 minutes comme quelque chose de sacré, alors que déjà être gaulerie sur 5 minutes, c'est déjà un exercice, quoi. Donc j'ai l'impression que 20 minutes, bah, c'est 4 fois 5 minutes. C'est une belle durée, quoi. Après, ouais, dans un an, faire du 30, puis dans un an et demi, faire du 1 heure, pourquoi pas. Mais là, dans les médias, non, pas du tout.
Et comment sont passés tes premiers 20 minutes? Parce que t'as joué plusieurs fois des passages de 20 minutes. C'est toujours bien passé?
Ouais, globalement, c'est bien passé. Après, il y a certains 20 minutes où j'y allais sans vraiment avoir 20 minutes. Et du coup, j'étais pas mal dans l'interaction, j'étais pas mal dans... L'objectif, là, était pas vraiment atteint, quoi. Donc, je jouissais pas vraiment du 20 minutes. Donc, c'était plus un 15 et 5 minutes, tu vois. Ouais. Mais non, ouais, c'est un exercice que j'aime bien et que je pense que t'aimes bien aussi, Nikos. J'ai 20 minutes. Ouais, c'est cool.
J'adore, mais...
je trouve que c'est un bon truc de suffisamment long pour que tu profites et pas trop long pour que tu sois en galère d'avoir. Quand t'as pas encore beaucoup de matériel, je trouve que c'est le bon timing.
Ouais, puis même ça te permet de taffer aussi. Enfin, tu crées une autre connexion, en fait. Déjà, sur 20 minutes, t'es dans une autre connexion, quoi. Sur 10 minutes, t'arrives, tu dois déjà vendre aux gens qui t'es. Alors que sur 20,
peut-être me placer les
t'as le temps de te placer, t'as le temps d'arriver avec un propos, je trouve ça, c'est agréable, 20 minutes. Après, c'est vraiment un autre exercice, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans un exercice où j'ai envie d'apprendre à être meilleur plutôt que d'apprendre à forcément faire très long. Et je respecte les gens qui veulent faire très long, hein. C'est pas le propos, mais.
Être efficace, quoi, en fait. Ouais. C'est vrai que, mais comme il disait, on a normalisé le 12 minutes en Belgique. Et c'est normal qu'après un ou deux mois de scène, tu joues 12 minutes.
Pas un mois de scène. Ouais, j'ai fait une scène. Une scène de 6 minutes. Et puis après, Rudy, il m'a dit, bah maintenant c'est 12, hein.
Ouais, C'est-à-dire que tu viens de faire une scène. Tu viens de tester l'expérience de monter sur scène, faire rire des gens, ce qui est déjà une configuration que tu fais jamais autre qu'avec du stand-up. Et on te demande de doubler ce que tu viens de faire. Genre, frère. Et à Paris, moi, j'avais été jouer un mois en mai. Sur tout le mois, je crois que j'ai dû jouer une ou deux fois 12 minutes. Et tout le reste, c'était des 6 minutes, des 5 minutes, des 3 minutes. Et genre, t'es en mode. Mais voilà, en fait, là, on nous apprend à être efficace. En fait, tu montes, t'as 5 minutes pour convaincre les gens. T'as pas convaincu après 5 minutes, ça dégage. Et je trouve que c'est un truc où, en Belgique, j'ai l'impression qu'on a un peu trop pris l'habitude de faire une vanne. Et puis 2 minutes après, il y a une deuxième vanne. Et t'es en mode, mais en fait, c'est qu'il fallait combler tout le reste.
Ouais. J'avais parlé de ça avec InnoJP. Super podcast en 2 épisodes dans Humeur Humoristique. Non, mais je le fais avant que tu le fasses parce que je te connais. Et Inno, il disait, ouais, en fait, en Belgique, on a trop d'eau. C'est d'eau de liquide dans nos textes.
Ouais, c'est ça. Okay.
Du coup, sur 5 minutes, t'es obligé d'y aller.
Quoi.
Ouais.
Finalement, c'est on continue avec l'eau. Quoi. On essore l'eau et il n'y a plus que du. J'ai pas la fin de cette métaphore.
T'inquiète.
Ok, toi, Nikos, toi, tu reviens du Festival d'Avignon pendant lequel t'as joué ton spectacle Venez, s'il vous plaît.
C'est vrai.
Tu l'as joué combien de fois en combien de temps?
Bah, ça va, 10 fois en un mois. Enfin, du coup, en 20.
27.
En 24 jours.
T'es chiant comme maman.
Ouais, pardon. 24 jours, 10 fois, ouais.
Ok, mais 10 fois en 24 jours par rapport à l'habitude où tu joues.
C'est énorme, comparé
à l'habitude. 10 fois par mois.
Ouais. Okay. En fait, c'est ça qui était cool avec Avignon, c'est que ça a permis de, en termes de maîtrise de spectacle et d'expérience, on a vraiment fait ce qu'on aurait fait en un an, en un mois, quoi. Genre vraiment un an, c'est pas genre une exagération, c'est une fois par mois, bah c'est ok, en 10 mois. Donc je trouve ça ouf, en termes juste de maîtrise de spectacle et de comprendre l'exercice du 1 heure, c'est intéressant, tu vois. Okay. Genre, ouais, je crois qu'on a tous un peu pris en expérience à ce niveau-là, en tout cas.
Et comment ça s'est passé, ton Avignon ?
C'était cool, hein. C'était déjà, je commence avec gros respect à tous les humoristes qui font une date par jour pendant un mois.
C'est... Et qui ont pas une villa avec piscine.
Et qui ont pas une villa avec une piscine et genre et qui doivent aussi flyer eux-mêmes et tout. Et genre je dis putain, mais en fait c'est vrai que c'est un. Quand c'est ton premier, en fait, je crois que tu découvres vraiment le délire et tu dis ah, ok d'accord, c'est ça en fait. Tout le mois, c'est quand même épuisant. Il y a beaucoup de trucs. C'était moi j'aime bien, je suis un peu casanier, donc j'aime bien avoir mes repères et tout. Et là pendant un mois, on a fait que villa centre d'Avignon. Villa, c'était que ça pendant un mois, tu vois, et donc à la fin c'est un peu, t'as un truc de répétitif, tes journées sont tout le temps les mêmes. Par contre vraiment cool, il y a une bonne ambiance entre les humoristes, entre les autres comédiens, les gens qui fly, tu sais, il y a une bonne vibe dans la ville et tout, donc en vrai c'est quand même une bonne expérience. On a rencontré des gens, on a travaillé et tout, donc c'était cool.
Et est-ce que ton spectacle, tu penses qu'il a progressé, parce que pendant le festival t'as pas le temps de le retravailler parce que tu le joues, le lendemain tu dois flyer, donc t'as pas le temps de commencer à peaufiner, de dire ah, hier ça a pas fonctionné, je le retire. Enfin, tu peux le faire un petit peu mais limité, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que tu sens qu'il a quand même progressé grâce à Avignon ?
Mais je pense, ouais, parce qu'en fait, j'ai quand même réussi à changer des trucs. Okay. Alors, c'est pas des gros trucs, mais genre, en fait, dans la structure du spectacle, déjà, là, c'est la première fois que j'ai fixé un ordre de mes sketchs. C'est-à-dire qu'en fait, quand je faisais mes rodages au Kings, vu que c'est des rodages, en fait, je cherchais, donc je faisais avant un truc après, j'essayais avec des running gags, je mettais un sketch à la fin et tout. Et là, ici, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, t'en figes un, comme ça tu le travailles comme ça, et là, je l'ai figé, et je crois que c'est un bon truc, donc je l'ai gardé. Du jour 1 au dernier, je pense qu'il y a quand même une petite amélioration. Après, c'est vrai que, comme tu disais, c'est ça qui est frustrant, c'est quand tu sais ce qui va pas dans ton spectacle, donc tu dis, ok, voilà, cette partie-là, j'ai compris, elle marchait moins, je vais la retravailler, mais t'as pas le temps de la retravailler, en tout cas, tu peux la retravailler, mais pas la prendre. Et du coup, c'est-à-dire qu'après, le lendemain, tu remontes sur scène, en sachant ce qui va pas marcher, tu le fais, ça marche pas, et en fait. Et en fait, après, t'as un mois comme ça où tu montres un produit pas fini, que t'es au courant qu'il est pas fini, que tu sais ce qu'il faut retravailler. Et du coup, il y a quand même un côté frustrant de se dire, t'as envie de leur dire, les gars, bon, là, cette partie, elle est un peu moins drôle. Je sais, mais tu peux pas dire ça, tu vois. Mais donc, ouais, il y a un truc un peu frustrant. Et ça, j'en ai parlé avec d'autres humoristes qui étaient aussi à Avignon. Et on a senti la même chose, le truc de, en fait, jouer à un truc que tu sais pas fini, c'est frustrant un peu.
Mais autre gros avantage d'Avignon, c'est qu'il y a des producteurs, des organisateurs de scènes, enfin des gens de centres culturels un peu partout en France, en Belgique, qui viennent. Est-ce que tu t'es fait des contacts intéressants ?
J'espère. On a parlé à plein de gens. Je sais même plus qui en vrai, pour être honnête. Genre, on a parlé. Et puis c'est aussi Cédric, Rudy, John qui ont parlé. Donc c'est les gens qui ont organisé tout le concept, qui ont parlé avec les gens. Mais oui, on a rencontré des gens de Montreux, on a rencontré des gens de festivals en France. Il y a un gars de M6, il y a des trucs. Donc moi j'espère maintenant qu'on a été dans les petits papiers, les gens nous ont vus et se sont dit voilà, trop bien, eux ils ont du potentiel ou quoi. Parce que je pense qu'ils ont peut-être aussi vu des gens pas finis, tu vois. Enfin, je veux dire, on est des humoristes, on joue à Avignon, c'est notre spectacle.
Ils voient énormément de gens aussi.
Oui, ils voient beaucoup de gens. Et puis on a joué notre spectacle respectivement, je crois, 10 fois avant de le jouer, ce qui est vraiment très très peu. Et donc les gens, peut-être qu'ils viennent, ils se disent bon voilà, en Belgique il y a un niveau, on le voit, ils sont bons, ils sont pas encore prêts, mais en tout cas il y a du gros potentiel. Et donc moi je pense que c'est ça, et j'espère être dans les petits papiers. Et puis quand il y a un projet dans X temps, en fait j'attends rien de ça parce que je contrôle pas. Du coup je me dis juste, si ça vient tant mieux, ça vient pas, moi j'ai quand même eu des chouettes trucs là-bas. Donc
Bah, ce spectacle, tu vas le jouer le premier vendredi de chaque mois au Kings of Comedy Club
à 20h.
À 20h.
Waouh.
C'est vrai.
Mais de quoi parle le spectacle ?
De moi.
Voilà,
c'est tout. J'ai du pitié, je sais pas combien de fois mon spectacle à Avignon, et c'est l'enfer parce qu'en fait j'ai l'impression que je vais me déforcer en disant ça, mais j'ai pas l'impression, tu vois, c'est pas ce que je dis qui va motiver les gens à venir me voir, tu vois. Genre moi j'ai l'impression que juste, en fait je vends plus un bon moment, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, c'est que pendant une heure les gens ils passent juste un bon moment. Alors oui, j'aborde des sujets, genre en fait je parle vraiment de tout le chemin qu'il y a à faire avant la finalité qu'on cherche. Donc là dans mon cas c'est être humoriste. C'est le rêve de gosse d'avoir humoriste. En fait, tout ce que ça engendre de vouloir faire ça, qu'on s'en rend pas compte. Et je prends un exemple, le documentaire d'Orelsan sur Amazon Prime, où on voit tout son évolution. Non, c'est vrai. On voit tout son évolution. Et je suis intéressé de voir son chemin vers le succès, tu vois. Et du coup, j'essaie d'expliquer ça un peu. Et après, je parle aussi des oiseaux, de la séduction et des livres de sushi.
Okay.
En gros.
Mais le sketch sur les oiseaux, je l'adore.
Il est en train d'être amélioré.
Il est incroyable. Il est incroyable.
Non, je l'aime bien aussi. Je sais qu'il a un gros potentiel, donc il va. Hop, s'enregistrer dans 6 mois. Les oiseaux, ça perce. Bah, je vous le dis, je vous le donne. 6 mois, peut-être un peu court. Non,
un an. Il va me demander de couper. Il dit, modifie la voix pour dire 2 ans. Ah non. Et le 29 septembre 2021, vous aviez lancé un projet en commun qui est le Côte Comedy Tour, durant lequel vous avez organisé des plateaux dans les auditoires des universités belges. Ce projet revient pour une deuxième saison. La première, c'est le 4 octobre à Alma, co-organisé par le Côte SN. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet et de comment il est né, le bilan de la saison 1?
Alors le bilan, moins 4 500 euros pour le What the Fun.
Allez hop.
Ça c'est fait. En fait le projet il est né parce que déjà c'était confinement. Mm-hmm. Donc en vrai j'ai pas été honnête. Quand tu m'as demandé quand est-ce que j'ai commencé, j'avais fait une scène, genre juste avant le deuxième confinement. Genre 6 minutes, à Los Amoal. C'était très cool, mais après bah y a plus rien en fait. Y a plus rien pendant un an. Sauf que j'avais déjà rencontré Nikos bref. Et je lui envoie un message. Et en fait, moi, je sors de ce qu'on appelle en Belgique les cotes à projet. Donc, cotes, c'est les appartements étudiants. Et en gros, c'est des groupements d'étudiants, d'une dizaine d'étudiants qui partagent un projet. Et moi, mon cote à projet, c'était l'improcote, dont Rudy a déjà parlé dans son podcast. Et donc, on organisait des événements dans les auditoires. Et donc, je savais d'expérience qu'organiser un événement dans un auditoire, c'était hyper facile, en fait. Tu sais, t'as un auditoire, tu dois avoir du matos. Mais l'auditoire, en fait, c'est fait pour écouter des gens parler tout seul. Enfin, c'est le principe d'un auditoire. Que vraiment, tout est fait pour ça, quoi. J'envoie un message à Nico, je fais, gros, en fait, viens, on fait des blagues dans un auditoire, quoi. Ça a déjà été fait, ça existe. Et en plus de ça, souvent, sur les plateaux, que ce soit du What the Fun, du Kings, du Comedy Cat et tout, c'est pas souvent des jeunes qui viennent voir, en fait. C'est plus des gens qui ont un profil, genre, 25 et plus, parce que c'est des gens qui maintenant gagnent de l'argent, etc., et qui n'ont pas accès, alors que les jeunes, on l'a vu pendant le premier confinement, ils consomment du stand-up. Genre Paul Mirabel qui a explosé pendant le confinement, tous les jeunes ont vu le passage de Paul, tous les jeunes ont regardé de notre génération, ont regardé Ondar quand on était gamin. Donc ils savent que ça existe, mais ils savent pas où le regarder. Et donc on s'est dit, bah plutôt que leur dire, vous viendriez bien dans un bar, on s'est dit, mais viens, on rend ça accessible, tu vois. Donc le but, c'était aller dans les auditoires. Et parce qu'on a bien conscience que un étudiant, ça gagne pas ce que gagne un cadre, on s'est dit, bah viens, on rend ça hyper accessible. Et donc c'est 5 euros la place, qui est rien du tout pour les line-up qu'on propose, en fait. Parce que c'est pas des line-up genre José qui commence le stand-up depuis 2 mois. Non, le dernier de l'année passée, c'était Fanny, Louis, Ino, Dena. Enfin, donc c'est vrais line-up, quoi.
Vous avez Guillermo Guise.
On a eu Guise, on a eu Cérine, Dan, enfin
Paul Mirabel était sur une affiche, mais je sais pas si
on voulait faire gagner des places pour Paul parce que tu connais la visibilité. On a gagné des followers. Merci à John qui nous a donné l'autorisation. Mais du coup c'est ça le but. Le but c'était de montrer aux gens que ça existe et puis de leur dire venez voir. Et la première édition c'était quand même un succès. On a été dans pas mal d'endroits en vrai.
La vraie première
c'était pas un succès, mais
imagine on travaille depuis des mois sur un projet,
genre 8 mois, genre
vraiment on a l'excitation de ouf, on a galéré pour les sponsors et tout, on s'est dit vas-y on continue et tout, on va à l'ULB, on fait la scène, c'est la seule date où on sait pas les résas. Donc on n'a aucune emprise sur ça, on ne sait pas du tout si ça a bien pris ou quoi.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le business plan, c'est dans chaque unif où on va, chaque université où on va, on a un partenaire, parce qu'on n'a pas la prétention de connaître la réalité de chaque unif. Mm-hmm. On ne connaît pas le terrain, donc on se dit on va trouver un partenaire. Et donc là, on dit votre rôle en tant que partenaire, c'est de gérer les réservations et de gérer la com, et c'est vous qui gérez parce que nous on ne sait pas.
Ok.
Et théoriquement, donc ils devraient savoir comment faire parce qu'ils ont déjà organisé des trucs. On va là et tout, et au fur et à mesure du temps qui arrive, je crois il est 19h30, on arrive pour ça 20h, et on voit qu'il y a vraiment pas du tout beaucoup de gens. On avait réservé un auditoire de 400 personnes et il y avait 40 personnes.
Eux avaient réservé un auditoire de 400 personnes.
Et donc on était 40 dans un auditoire de 400.
Ok.
On les a mis tous en ligne et tout, et
en vrai cool
ça
soirée,
ça s'est vraiment bien passé.
En vrai cool soirée, t'as rencontré des gens.
J'ai rencontré une personne que j'ai fréquenté un petit peu par la suite.
Ok.
Non mais
c'était très sympa d'ailleurs. Chouette.
Avec sa mère d'ailleurs, elle était là.
Et sa mère était là.
C'est sa mère qui lui a donné l'autorisation.
Non mais elle était là à la scène, on précise.
Et au final, ce qu'il faut dire, c'est que en fait les organisateurs de l'ULB ont été aussi gênés que nous Parce qu'en fait,
oui, voilà,
on s'y était pas très bien pris, on n'avait pas anticipé le fait qu'on était en plein milieu des baptêmes étudiants, qu'on était en plein milieu de la rentrée académique, qu'on avait fait la date trop tôt, etc.
Il y avait full événement le même jour.
Il y avait full événement, donc ils ont été hyper ok, et puis ils ont dit, bah voilà, on va pas continuer de travailler avec vous, c'était ok. Et nous, on leur a dit, bah si c'est votre volonté, pas de soucis, on comprend. Donc là, l'objectif, c'est de retrouver un partenaire pour l'ULB, mais normalement, c'est en bonne voie.
C'est en bonne voie.
Parce que l'ULB, bah, donc Université Libre de Bruxelles, c'est quand même une grosse université.
Bah ouais.
Et au final, c'était très cool, même s'il n'y avait que 40 personnes, c'était très cool, mais c'est vrai que.
C'est plus décevant, tu sais, tu fais moins d'un truc, tu t'imagines avoir. Tu t'éteins aussi,
t'imagines avoir 300 personnes.
Ça va être le feu et tout, et tu vends ça aux humoristes. Si on avait un Parisien, on avait Julien.
On avait Julien Sommet, ouais.
Julien Sommet, et genre, toi, tu te dis, vas-y, ça va être le feu, les gars, 400 personnes, et tu sais, ils sont là, et tu vois qu'il y a l'histoire, ils ne s'emplit pas, tu leur dis, les gars, on va commencer, ils sont, mais les gars, il n'y a personne dans le voyage.
Les humoristes étaient hyper sympas.
Par contre, c'était méga cool. Ouais. Ils voyaient bien qu'on était déçus, tu vois, qu'on était en mode, putain, mais frère, on n'en peut rien, et genre, ils étaient là, non, mais en vrai, t'inquiète, on va kiffer. Et tout.
Ah, je me sens que Gaëtan nous disait, non, mais c'est cool.
Ouais, non, franchement, ils étaient tous, c'est cool de mettre ça en place et tout, tu vois.
Quand t'es humoriste, tu sais que t'arrives à la scène, il n'y a pas beaucoup de monde, les organisateurs ils sont pas bien, tu vas pas en rajouter derrière.
Ouais, mais
après, il y a un deal, tu vois. Ouais, là, on parle de business, tu vois. Nous, notre volonté, c'était autant de mettre les humoristes, enfin, de mettre l'humour en avant, mais aussi de mettre les humoristes, quoi. Parce qu'on sait que c'est les jeunes sur les réseaux, ils peuvent suivre, ils peuvent lâcher des follow, machin. Mm. Et donc, il y a un vrai deal, tu vois. Nous, on payait nos artistes, le but c'était. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'argent du tout et qu'on en a perdu, en fait. Parce que le but c'était de payer correctement les artistes, donc on arrive avec un vrai deal. Où on leur dit, ben voilà, il va falloir faire des vidéos de promo, partager un petit truc, vous aurez un vrai contrat, machin. Et puis après, ils jouent devant 40 personnes. J'aurais pu comprendre qu'ils nous disent, bah, les gars, c'est pas carré, quoi. Je me mets en danger. Voilà. Après,
c'était vraiment.
Tous les autres, c'était trop, trop bien. Mm-hmm. On tournait aux alentours de 200, entre 200 et 300 personnes sur toutes les autres génial, lieux. Ça. Pour une première, c'était trop cool. Petit big up à l'équipe d'Alma. Mmh. Qui pour la première a créé, je pense, l'auditoire le plus chaud de l'histoire de tous les auditoires de Belgique.
Ah, c'est la deuxième aussi. C'est où j'ai fait le tout de la messe, et c'était là.
Là où Ino est passé premier, et je pense que littéralement il a pris un applause toutes les deux minutes. Okay,
ouais.
Mais genre ça n'avait aucun sens.
Oui, en vrai, ce genre de scène, tu arrives, ils sont trop chauds, quoi. Okay, ouais.
En plus, c'est un public jeune qui a les codes un petit peu de comment ça se passe, donc.
Ouais, et puis qui rigole fort et qui sont pas. En fait, ils sont chez eux, tu vois, donc en fait, ils se sentent à l'aise.
Ouais, y a pas cette pression sociale qu'on retrouve d'habitude dans les auditoires. On n'ose pas être nous, quoi.
Ouais.
Là, c'était trop cool. Puis les gens étaient sympas. On a fait la fête avec eux après. Enfin, non, c'était vraiment vraiment sympa. Les gens sont cool. Donc là, on relance une deuxième édition.
En espérant du coup que le bouche à oreille. En fait, on sait juste qu'à chaque fois, on avait tellement de bons retours de 200 personnes. On se dit, en fait, c'est toutes les personnes. Ils en parlent ne fût-ce qu'à une
personne.
On remplit 400 facile, tu vois. Donc, on espère vraiment que ça va fonctionner comme ça et qu'on aura des sponsors aussi. Ce serait ça l'idée, non?
Ouais, si on a réussi à avoir de l'argent pour moins perdre d'argent. Mais...
Si jamais il y a une société qui a beaucoup d'argent qui veut nous sponsoriser, envoyez un message, s'il vous plaît.
Mais une société avec des valeurs.
Mmh.
Donc il y a moyen qu'en fait vous n'ayez pas beaucoup d'argent.
Les valeurs, c'est bien, l'argent c'est mieux.
On paye pas un auditoire avec des valeurs, voilà, c'est ça que je veux dire. Hop, Nikos Koncel.
On paye pas les auditeurs.
C'est pour le
Je rappelle du coup la première date, donc le 4 octobre à Alma.
Exact.
Ils veulent aller voir ça.
Je la note aussi, moi.
Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à vos actualités respectives? Vous m'aviez parlé de la saison des 20-20-20 par message.
Ouais.
C'est quoi?
T'as fait un AVC là?
Ouais.
Bah pareil, ça.
Ouais, c'est la même, ça a commencé de la même
façon. De la même façon, ouais. On allait à Liège en voiture.
Parce que tu dis Liège, toi. Pas Liège.
Non, c'est une ville en deux mots.
C'est, okay. C'est une autre ville. Okay. Toi, tu penses à Liège avec le carré. Non, moi je pense à Liège.
Okay.
Ah, non,
c'est Asbi. Waouh. Le gars. Cancel.
Waouh. On arrête. Non, on allait à Liège, excuse-moi Régis, et on s'est dit, en fait, en vrai, on va pas souvent en dehors de Bruxelles. Genre tout est à Bruxelles en fait. Alors que Nikos et moi, on est des enfants de la terre wallonne au fond, hein, comme toi.
Mais
on
oui.
Des... Ouais, du Brabant wallon. Mais je voulais pas le dire parce que sinon ils vont croire qu'on a de l'argent. On a de l'argent. Et on a été des privilégiés au fond. Hein.
C'est vrai.
Non, mais du coup, on s'est dit, mais viens, on fait pareil quoi. On amène le stand-up aux gens quoi. Parce que à Bruxelles, ouais, ils connaissent, ils savent que il y a des gros festivals, genre le Vourire. Maintenant, il y a le festival à Namur, il y a le festival à Mons et tout. Mais c'est toujours des espèces de one shot où les gens mettent en avant, tu sais, Rochefort, des trucs comme ça. C'est des spectacles où sont mis en avant des gens qui ont pas toujours besoin d'être mis en avant, on s'entend, mais qui sont déjà dans un stade de leur carrière où en fait, ce qui
Ils remplissent déjà des salles.
Ouais, ce qu'ils défendent, c'est leur matos. Mais alors qu'il y a plein d'artistes de ouf et c'est hyper facile à organiser. Et du coup, on a commencé à faire ça.
Toi, là, dans ce genre de truc, j'ai l'impression que ce qu'on met en avant, du coup, c'est la personne et tout. Mais nous, avec les 20 ans, ouais, c'est surtout en avant, c'est en fait,
la discipline. Ouais.
Voilà, ça. C'est en fait, c'est faire connaître le stand-up. C'est quoi le stand-up? C'est quelqu'un qui arrive sur scène, qui parle, qui te fait des vannes et tout pour passer un bon moment pendant une heure et genre. Ça, les gens ils connaissent vraiment. Tu sors un peu de BX, tu vas dire stand-up, même stand-up, les gens ils sont là. Je sais pas c'est quoi.
On a joué à Chastres, qui est un petit village dans le Brabant wallon, et il y avait un public de 120 personnes, je crois, dans une assos culturelle dans la tchatch. Et en fait, il y a plein de gens qui avaient vu des sketchs à la télé, à la machin, mais ils avaient jamais vu en vrai. Et nous, on s'est dit, mais en fait, faire ça, c'est facile, tu vois. Genre, c'est facile. On est deux, on trouve deux autres personnes pour faire une première partie et un autre 20 minutes, ou un ou deux fait 10 minutes et on prend deux autres 20 minutes, peu importe.
C'est une config hyper simple.
C'est hyper simple, tu vas une voiture, tu fais le trajet, tu fais un chapeau ou pas de chapeau. L'année prochaine, ça sera sans doute des entrées payantes parce que c'est plus facile en termes d'organisation. Même si on remarque qu'en dehors de Bruxelles, les gens sont quand même beaucoup plus généreux, quoi. C'est sans doute en termes de pouvoir d'achat aussi, hein, mais
après, genre, parce qu'on cible, en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est aller dans des petites salles de spectacle, tu sais, les trucs de village, comme la chat, tu vois, c'est un truc où, en fait, ils ont une communauté d'habitués qui connaissent la salle, qui viennent voir ce qu'il y a, ils font confiance à la programmation. Mmh. Et du coup, je sais plus où j'allais accéder, mais c'est dommage parce qu'en fait, du coup, je me suis coupé moi-même dans ma réflexion. mais c'est que, en gros, c'est des habitués, c'est, non, en fait, non, j'ai pris comme si je connaissais la fin de la phrase, mais je l'ai toujours pas.
Bref, la prochaine, le but, c'est de rendre ça plus, de pérenniser le projet. Mmh. Parce que l'année passée, on faisait ça vraiment en one shot. Le seul endroit où on allait de façon régulière, pendant toute l'année, enfin, pendant toute l'année, non, pendant 6 mois, on a fait ça. C'était à Cours-Saint-Etienne, pour 4 quarts.
Yep.
C'était très très cool, très très cool. À chaque fois, et ce qui était trop fou, c'est comme il dit, on faisait pas de pub. Vraiment, on faisait pas de pub, quoi. On créait un event sur Facebook pour dire que cet event existait. Mais on faisait pas de pub. Nous, on est, enfin, moi, je suis Mister Nobody encore plus que Nikos, mais même Nikos, enfin, les gens connaissent pas, quoi. Du coup, les gens venaient, et à chaque fois, on avait entre 40 et 70, 60, 50, enfin, j'ai fait le décompte dans l'autre sens, d'habitude, c'est dans l'autre sens. Et c'était trop bien, quoi. Et on a ramené des gens qui sortaient rarement de Bruxelles, c'est trop bien.
C'est ça que je veux dire. C'est que ce genre d'endroits, justement, sont en demande de ça, dans le sens où ils veulent des programmations, surtout après le Covid et tout, ils ont besoin de trucs qui viennent. Et surtout que là, ça change blindé, tu sais. Je sais pas s'ils ont l'habitude de prendre des chanteurs, des trucs. Mais là, t'arrives avec une nouvelle sorte de soirée, stand-up, humour, machin. Oh, c'est frais, c'est cool, hop, on découvre. Et du coup, en fait, tout le monde est bénéf. Nous, on cherche des scènes, on veut faire connaître la discipline. Eux, ils cherchent des spectacles. Et les gens qui viennent, bah, ils veulent découvrir des trucs. Bah, écoute, on a un combo gagnant.
Ouais, et en termes de technique, c'est tellement simple, quoi.
Mais ouais, stand-up, ça, c'est trop bien. Moi, j'ai mon pote, j'ai un Sammy Boy sur Instagram qui est batteur de Charles, du coup est batteur. Et donc, il joue, je sais pas, il y a le même style de scène que moi, donc c'est tous les deux jours à peu près. Mais du coup, à chaque fois, il a déplacé toute sa batterie et tout, et c'est l'enfer. Et moi, je me dis, quand je vais quelque part, je dois être juste moi et ma voix. C'est tout ce que je dois apporter. C'est vraiment le feu.
Autre avantage, c'est que les humoristes qui sont hors Bruxelles vont vous adorer parce que se déplacer moins, c'est quand même un luxe de fou. Les quelques fois où j'ai pu jouer à Mons, c'est trop bien, quoi. Je rentre.
C'est vraiment pour toi, ça va être relou.
Ah, moi, c'est une heure minimum de route.
Attends, là, t'as fait une heure de route, là?
Une heure et quart.
Ouais, mais il a choisi d'habiter à Mons aussi. C'est un choix.
Oui, c'est vrai, c'est un choix.
À un moment donné, il y a une position politique, quoi.
C'est un choix de naissance aussi.
Oui, bon, bah après, si tu commences à jouer sur les mots.
mais ouais, ça va faire plaisir à quelques humoristes hors Bruxelles parce que il y a pas que Bruxelles, donc ça c'est
non, cool. Il y a une NIF à Mons.
Oui. Ouais.
Allez.
Mais on a un contact à Mons.
Même ça. Oh, pour la question, je me suis dit, merde, on est déjà dessus.
Alors, maintenant qu'on est revenu sur l'actualité dans le podcast, j'aime remonter le temps. Du coup, pour votre page Wikipédia, j'ai besoin de savoir, vous êtes né où et quand?
XL, 22 février 1996, 11h47.
T'as l'heure, vraiment?
Ouais.
Moi, je dirais que je suis né à 17h02 et c'est la seule info que je donnerai. Je suis un peu. Voilà. Non, je suis né à Bruxelles le 16 décembre 1998. Donc, pour les anniversaires, maintenant, il n'y a plus d'excuses.
Et est-ce que enfant, vous étiez déjà des gens drôles?
Moi, je pense que ouais, je me suis beaucoup défini par mon humour. Mm-hmm. Dans le sens où, tu sais, je sais pas, il y a toute une période de ta vie où on te montre souvent ton défaut, ta qualité. Même dans les exercices en classe ou quoi, ou avec tes potes. Et je te disais tout le temps drôle. Je me suis toujours vraiment défini par l'humour.
Et les autres aussi définissent ça comme ça ou pas?
Oui, oui, non, en vrai, je pense
que c'est triste.
Nico, c'était pas drôle. Si, je suis drôle, arrêtez! Non, genre, en tout cas, j'essayais et je pense que. En fait, parfois, je crois que j'en ai déjà parlé quelque part, mais que le mec qui fait trop de podcasts. je sais pas si vous avez ça aussi, mais l'image que j'ai de moi, de comment j'étais en primaire et en secondaire, je me dis c'est peut-être pas la même image que les autres avaient de moi. Dans le sens où moi maintenant je me dirais bah ouais j'étais le mec drôle et tout, je mettais la bonne ambiance, et ça tombe il y a d'autres gens qui me voyaient et disaient mais c'était pas du tout le mec drôle, c'était le mec relou en fait, mais ils pensaient qu'il était drôle. Donc, du coup j'ai un peu ce truc là, mais
on parle de ça dans le podcast de Rosa,
ah mais voilà,
et non, coup, les mecs que je veux ken de Rosa Bernstein, pour ceux qui veulent aller écouter Nikos dans ce podcast là aussi après.
C'est vrai, mais et du coup il y a ce truc là, mais bref, du coup pour revenir à la question de base, oui je pense que j'étais toujours le mec drôle, et je me souviens aussi d'un truc, c'est que quand j'étais en famille et que je parlais d'un truc, je racontais une histoire, je me levais pour raconter l'histoire.
Oh, t'étais chiant.
Ah ouais, ouais, de ouf.
Oh, t'étais chiant.
Et du coup, ma mère était là, assieds-toi, t'es invité dans la tête. J'étais là, non, Laura, je raconte mon histoire. J'étais debout et je marchais, je faisais mes trucs. Et du coup, maintenant, quand j'y apprends, je me dis, ok, bah, make sense en fait, tout ça. Donc, voilà.
Est-ce que tu fais ça moins depuis que tu fais de la scène?
De me lever?
Non, non, mais genre de vouloir être drôle.
Non. Non.
Non, parce que mes potes sont chiants.
Non, ouais, je fais toujours. Et en fait, ce truc de lever et de marcher, j'aime bien toujours. Quand je raconte quelque chose à quelqu'un, j'aime bien être debout et parler, bref. Okay. Mais non, maintenant, ce qui me saoule aussi, c'est qu'on attend ça de toi.
Ça, je suis d'accord. Ouais.
Mm-hmm. C'est en fait quand toi, t'es quelque part, mais putain, ça arrive vraiment souvent, c'est quand t'es en soirée avec des potes. C'est surtout le pire, c'est les potes des potes. Mm-hmm. T'es qui ça, ils sont, ah, mais toi, humoriste, cool. Et t'es là, ils te regardent. Dès que tu fais une blague, moi, je sais, quand tu fais une bonne blague, tu vois, les gens rigolent et puis ils arrêtent de rigoler en mode, il m'a eu.
Oui.
Tu vois.
Ouais, le truc, c'est quand tu fais une blague nulle, qu'on te dit, t'es humoriste, toi.
Ouais.
Tu dis, ça fait,
ah, ouais. Je peux pas toujours être drôle, donc je travaille pas là, tu vois. Paye-moi, je ferai des blagues drôles.
Gratuitement, je suis pas drôle.
Ouais, ce que je dis souvent, mais c'est mal pris. C'est vite vu comme prétentieux en fait.
Ok. Oui.
Bon, c'est vraiment pas le but.
Je pense que c'est le mot du podcast hein, pour l'instant, que t'as un énorme boulard.
C'est vrai. Non, je sais pas, c'est ça qu'on. Oh,
non, pas du tout.
Je suis désolé.
Et toi, Julien?
Moi, j'étais pas du tout drôle, vraiment. Hein,
Ah ouais.
J'ai pas un souvenir de moi gaulerie, je crois, quand j'étais gamin, parce que j'étais un enfant très angoissé, genre très très angoissé. Et puis, je suis arrivé en secondaire, en troisième secondaire, j'étais en théâtre.
Ok.
Donc, je faisais du théâtre. Donc j'ai toujours aimé quand même l'aspect scène, etc. Ça, j'ai toujours kiffé. Mais j'avais dans mon groupe de potes des gens très marrants. Mmh. Genre vraiment Mehdi, Antoine, Simon, tout ça, c'était des gens très marrants. Genre...
Ah, Simon l'improcote ?
Non.
Ah, dommage.
Qui est très marrant aussi, mais ça, c'est après qu'il est arrivé. Vraiment des gens dans la vie de tous les jours, c'est des gens drôles, quoi. Et ils m'ont éduqué un peu à l'humour. Pas du tout stand-up, mais un peu à l'humour. Et... moi, je me considérais pas comme marrant. Moi, je faisais des trucs à la maison parce que dès quand j'étais gamin, je refaisais des sketchs.
Okay.
Mais plus dans l'aspect jouer. Tu sais, genre avec ma sœur, je me rappelle, on était petits, on refaisait le sketch du matelas des taloches à deux. Sauf que les taloches, ils ont un matelas truqué, quoi. Tu sais, Vincent m'a admis ça il y a pas longtemps. Le matelas, il était truqué. Et ben, vraiment, enfin, on mesurait 1m20, on n'arrivait pas, tu sais, ça ressemblait à rien. Mais on aimait bien l'idée de créer un spectacle plus que donc on faisait ça, puis j'ai refait les sketchs de certains humoristes, l'avion
de Florence Foresti,
tu sais le pilote d'avion de Franck Dubosc, des trucs comme ça, tout ça, c'est des sketchs que je refaisais, tu sais, le blond de Gad Elmaleh, et je le refaisais en spectacle à la maison, mais dans la vie de tous les jours, j'étais pas drôle, quoi. Je me considère toujours pas comme un gars très drôle dans la vie de tous les jours. Moi, je suis un gars un peu chiant, quoi, dans la vie de tous les jours.
Bonsoir.
Si je suis.
T'améliores.
Non, t'es un gars drôle. Tu fais tout le temps des blagues.
Non. Tu sais, je suis pas bout en train, quoi. Je suis pas bout en train.
Non, mais tu suis. Enfin, non, je veux dire, tu suis les délires, mais ça peut être hyper pas bien vu, mais c'est pas ça.
Pas de personnalité.
Ouais, c'est ça. C'est pas ça. C'est genre, je veux dire. T'es pas relou non plus, tu vois.
Non, mais il y a quand même un kilomètre de distance entre les deux.
On peut pas, enfin, quand nous on est ensemble, on se marre, genre.
Ouais, mais on est potes, ouais. Tu vois. Je suis pas le gars qui va faire de l'entertainment pour tout le monde, tu vois.
Ouais, d'accord.
C'est pas du tout ça.
Oui, okay,
même si ça me fait plaisir parfois, tu sais, de raconter une histoire, de machin, mais non, je me conseille, j'étais pas un gars drôle, quoi. Okay. Moi,
toi, t'étais deux départs différents, l'impression. Dans le sens, toi, t'es le gars qui était un peu enfermé sur lui, mais du coup, qui à la maison en scred, fait des trucs, et puis, tu sais, qui maintenant va se développer, qui va beaucoup travailler l'écriture, et du coup, hop, il y a. Et moi, c'est le mec qui a toujours utilisé l'humour, et du coup, qui utilise ça dans la vie de tous les jours, et même maintenant sur scène, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a deux, tu sais, c'est un peu les deux
possibilités pour arriver au stand-up.
Pour un humoriste, quoi. C'est soit t'es un peu sur toi, et du coup, en fait, du coup, t'as réfléchi à plusieurs trucs, et en fait, tu vas arriver avec peut-être un axe et un propos différent, parce que t'as eu le temps de réfléchir, et t'as eu le temps d'être renfermé sur toi, là où t'as les autres qui vont juste profiter de l'aisance qu'ils ont développé toute leur vie, tu vois.
Ouais, c'est ça, ils ont toujours été comme ça, donc, quand on dit qu'ils font de la scène, on n'est pas étonné.
En plus.
Que des gens plus stressés, plus timides au départ. Moi, les premiers, enfin, ceux qui ne connaissaient pas que je faisais du stand-up, quand je disais que je faisais ça, ils faisaient.
tu fais du... ouais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est pas normal.
C'est
et tu fais ça bien.
tu pleurais là.
Ben, non, ouais. Oui.
Mais après avec mes potes, je suis beaucoup plus à l'aise. Genre bah, ouais. Justement, je parlais d'eux, mais mon groupe de potes quand j'étais en secondaire avec eux, on s'amusait bien. Et là, j'étais beaucoup plus à l'aise. J'avais cette aisance que j'ai pu après développer dans l'impro, dans le machin, enfin dans tout ce que j'ai fait après. Mm. Mais c'est clair que non, sinon non. Je...
Et niveau votre entourage, vos parents, frères et sœurs, est-ce que ce sont aussi des gens drôles?
La mère de Nikos est très très drôle.
Ma mère de Nikos. Ma mère, elle m'a beaucoup. Je pense que ma répartie et mon côté un peu clash ou quoi, ça vient de ma mère.
Ouais, ouais,
parce que clair. Ma mère, elle est très réacte en fait. Je me rendais même pas compte.
Non, mais réacte dans le bon sens, hein, pas.
Oui, oui, non. Mais genre, une fois.
Je vais raconter comme ça.
Là, c'est un exemple dont je me souviens. J'avais un pote à l'époque qui venait et il avait une cicatrice sur le front.
Okay.
Si c'était, il s'était pris un poteau, bon, voilà, c'était pas le couteau le plus aiguisé, mais il s'est ouvert, je lâche des expressions, à moitié. Bref, il avait une cicatrice sur le front, et ma mère le voit pour la première fois, elle ouvre la porte, elle voit sa cicatrice, elle dit, si jamais tu casses un truc dans la maison, je t'en fais une deuxième. Et genre, je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas de bonjour, tu vois.
Ça s'appelle du harcèlement, ça, Nico.
C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'elle est en prison. Non, mais genre, niveau répartie, je pense que ma mère m'a beaucoup donné, tu vois. Mon père, il a un humour de daron, je crois.
Ouais.
Tu vois, c'est sa meilleure vanne. C'est-à-dire, sa blague, quand il l'a fait, il est mort de rire, il la connaît. Et il dit, tu connais la différence entre l'école gratuite et l'école pour rien? Moi, j'étais à l'école gratuite et toi, t'as été à l'école pour rien. C'est ça. Et wow. Il est mort de rire.
Wow.
Je te jure, c'est vrai. Et
moi, je pense que c'est pas une blague, je pense qu'il essaie de faire passer un message. Ouais. Mais...
et après, il rit, mais c'est pour pas pleurer.
Non, mais du coup, je pense que c'est... Mais non, je crois qu'il est... Non, je pense qu'il est drôle, mais c'est pas drôle.
C'est pas drôle qui fait rire.
Non, mais oui, mais c'est ça. C'est pas drôle recherché ou quoi.
Il est bon ambi, ton daron.
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Il est bon ambi, mais c'est pas lui qui va te trouver des bonnes vannes. Il te fait une vanne, t'es en mode ah bâtard, c'est une bonne vanne.
Okay, ouais. Il veut bien faire.
Et il a un humour de daron, tu vois. C'est, okay, je pense que c'est pas quelqu'un qui a été éduqué à l'humour en soi.
Il rigole en haussant les épaules, son père.
Ouais. Et quand il rigole pas, il a les bras croisés. Ouais. Et il faut savoir qu'il est grand, chauffe, baraque.
Grand, c'est pas le terme, mais.
Il est pas grand.
Gros, t'as dit?
Non, grand, c'est pas le terme.
Pourquoi c'est pas le terme? Il est pas grand.
Il est pas très grand.
Non, il est pas très grand. En fait, pour moi, quand j'étais petit, il était grand.
Parce que vous êtes deux géants aussi, hein. Faut préciser.
Hein. Mais oui, il fait 1m86, je crois. Donc,
c'est vrai, pas grand,
c'est
pour
pas
nous.
Grand, ouais, c'est vrai.
Attends, juste pour les gens qui. Parce que c'est que audio. Moi, je fais 1m87. Mmh. Nikos, tu fais.
Moi, je suis 2010. Les gens, ils disent, ah ouais, ça va, pas du tout avec son corps. Non, je fais
1m90.
Moi, 1m94.
Ah, ok, bah, donc on est... Voilà, c'est une information super importante pour un podcast audio, mais voilà.
Par contre, dans l'humour, parce qu'on parle de la taille, je trouve que c'est parfois handicapant d'être très grand.
Ah ouais?
Bah, tu joues parfois sur des scènes
où
vraiment ils voient ta bite, quoi.
Ouais, ouais.
Moi, je me suis cogné la tête sur deux ou trois scènes.
Ah ouais, non, mais l'enfer, vraiment, j'ai joué sur. Mais t'as joué là aussi, au Boudu, avec Léandre.
C'est vrai que avec la...
ouais. Et c'est hyper bas et les gens sont hyper proches et vraiment tu sais pas comment physiquement c'est difficile, donc moi j'ai un peu ce truc de je vais un peu m'abaisser
les endroits où tu joues dans des caves, tu sais que tu peux pas lever les mains, donc si t'as des gestes qui vont vers le haut, tu les fais.
Il y en a, il a pété le mur, bah, justement là-bas il avait le micro, il a fait une vanne où il lève les bras. Ouais. Je sais plus, c'est un grec.
C'était
Giovanni. Non, ah oui, c'était moi, putain, je suis faux. Mais non, je sais plus c'est quoi son prénom. Désolé, très sympa, mais je me souviens plus. Et il avait juste levé les mains et du coup il a tapé le micro sur le plafond, ça fait un gros bruit et tout. Okay. Donc ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est plus grand.
Voilà, c'est une problématique qui n'est pas assez abordée dans le stand-up, voilà, on l'a dit.
C'est qui n'est pas non plus.
Qui n'est pas non plus énorme,
vraiment. Il y a d'autres trucs.
Notre vie va bien, quoi.
C'est les problèmes d'hommes hétéro blancs.
Blanc. Oh, putain,
on est trop grand, comme le
plafond.
Oh non.
On correspond trop au standard de beauté.
Et toi, Julien, ton entourage, est-ce que ce sont des gens drôles?
Alors, ma mère est pas très drôle. Ma mère est neutre, je dirais. Ma mère est neutre.
Mais elle rigole.
Ouais.
Okay.
Ma mère, elle rigole. Ma mère rigole.
Ça, c'est cool.
Ma mère est neutre, mais elle rigole. Genre, elle est sensible à l'humour. Elle est sensible à l'esprit. Ma mère, quand elle a été voir le spectacle de Guise, c'était fou dans sa tête. Alors, c'était fou.
Ah, ouais.
Là où mon père, par exemple.
Il aime pas.
mon père, c'est un homme, bah, pareil, en fait, hyper jovial. Mon père a été géo au Club Med. Donc gentil organisateur au Club Med, et donc c'est un gars qui a la bonne ambiance, et, il aime bien raconter des histoires, il exagère toujours, tu sais, genre le bon pote en soirée, tu sais, il tient pas du tout l'alcool, donc au bout de deux verres de vin il est bourré, enfin tu sais, genre hyper bonne ambiance, genre, hyper cool. Et donc c'est marrant, c'est un peu jour et la nuit entre mes parents, ma mère parfois elle est morte de rire à ce que mon père fait, parfois elle est en ah non c'est pas drôle ça, et mon père il est toujours dans la bonne vanne et tout. Après c'est pas il va pas, par exemple lui ils ont été voir le spectacle de Guise ensemble, et Guise m'a dit à la fin du spectacle, ton papa c'était le monsieur là-haut qui croisait les bras. Ah, je oui c'était lui le monsieur là-haut, parce qu'il est moins sensible à ça. Mon père il est gaulerie, mais il est moins sensible au travail, quoi. Je sais que moi j'ai fait de l'improvisation pendant 10 ans, il a jamais kiffé aller voir me voir en impro, quoi. Il trouvait ça sympa et tout, mais il comprenait pas ça, c'était pas ça le moment drôle pour lui, quoi. Par contre, avec ses potes et tout, c'est toujours c'est des soirées jusqu'à 5h du mat où ils rigolent.
Ton père est déjà venu te voir sur scène?
Ouais. Bah justement, il est venu me voir deux fois. Mmh. Il m'a vu deux fois. Une fois parce que c'était le jour où c'était mon anniversaire et je faisais MC sur scène. Et du coup, je lui ai dit, c'est mon anif, mais je fais MC, ça serait cool que vous soyez là. Donc là, il était là. Bah, bon, je faisais MC, donc en vrai, pas vraiment au Black Sheep. Tous les derniers mardis du mois. Enfin, on sait pas encore, peut-être ça va changer, pas avec la nouvelle saison. Mmh. Et donc là, il était là, et puis sinon, il m'a vu faire la première partie de Guise, justement. Et il est biaisé parce que du coup, dans le passage que j'ai fait pour la première partie de Guise, je parle de lui, et du coup, il trouve ça marrant que je parle de lui parce que je raconte des trucs qu'il fait lui, que je tourne un peu.
Oui, qui sont drôles.
Qui sont drôles.
Tu dis pas des trucs.
Non, je dis pas des trucs. Non, mon père est cœur couille. Non, pas du tout, je te raconte des trucs sur lui. Et c'est marrant parce que le fait de parler de lui, je trouve que ça a créé une nouvelle relation avec mon père, tu vois. On a désacralisé certains trucs, donc ça c'est cool. Donc là, il va rigoler, mais je pense que si une autre personne faisait le même type d'humour que je ferais, il rigolerait pas, quoi.
Ok.
Il rigolerait pas. Et ma mère est pas du tout objective sur moi. Vraiment, pas du tout.
Okay.
Vraiment pas du tout. Ma mère, j'ai des vidéos d'elle qui me filme quand je joue. Genre, elle est venue voir le KCT une fois. Mm-hmm. Et tu vois qu'elle rigole et tu vois la caméra bouger. Donc vraiment pas objective. Mais, ouais. Mais des personnes charmantes. Bisous.
Mais moi, ce que je me demandais, si ton père avait déjà été voir, parce que moi, il était déjà venu aussi. Et là, récemment, il est venu, il n'y a pas longtemps.
Il est venu voir un 20-20-20 à Saint-Etienne.
Mais ça, c'était pas ouf. Tu sais qu'après, je sais pas si je peux dire ça. Mais après la date, on s'était appelé et il me dit, ouais, Avignon, tu prépares bien et tout. Je dis, ouais, on verra, non, ça devrait aller et tout. Puis on parle de l'année prochaine parce que normalement j'arrête mes études et tout, donc tu sais, il y a un changement et donc voilà, il faut que je m'y mette bien. Il faut parce que je vois pas beaucoup d'amélioration depuis. Voilà, je te jure, c'est un mini-balle, putain. Wow. Parce que ça faisait genre, je sais pas combien de mois qu'il m'avait pas vu, il voit une scène à la quotidienne où là, cette fois-là, ça avait moins bien été, il y avait pas beaucoup de gens.
Oh, la violence.
Il y avait pas beaucoup de gens, il y avait 6 de ses potes, donc moi c'était horrible parce qu'en fait, sur 20 personnes max, il y avait 6, c'était les potes de mon père d'il y a longtemps que j'ai connu depuis toute ma vie, enfin genre du coup ouais. C'est pas du tout objectif et c'est dur de faire des blagues sur ça, bref. Et du coup le coup du ouais je vois pas beaucoup d'amélioration, il m'a bien flingué, quoi. Et je dis, ouais, tu peux pas juger tout mon travail de un an sur une scène, tu vois, genre
ça, ouais, mais c'était une scène hyper particulière. Il y avait ce gars qui
ouais, en plus il y avait un gars chelou
qui parlait, qui interagissait réellement avec les gens, quoi. Et genre à un moment donné, je suis remonté sur scène. Alors que je faisais pas MC ou tout ça, mais je suis remonté sur scène en lui disant, viens, on fait un jeu. Si tu parles, tu payes un verre à tout le monde, quoi.
Ok.
On est arrivé là, quoi.
On est arrivé là, tellement
il était. On va trouver un stratagème pour que.
Ouais, il se calme, quoi. Ok. Mais, et du coup, pour juste terminer un truc, c'est que je trouve que les parents, c'est quand même un truc. Tu sais, quand j'étais sur scène, c'était pour mon spectacle, avant d'aller partir à Avignon, où je jouais, et mon père était au premier rang sur le côté, et c'est horrible de jouer et de voir que ton père, il rigole pas. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça. Tu sais, quand surtout que nous on a des darons qui, quand ils rigolent pas, ça se voit, il est pas ouais.
Physiquement, c'est des frigos, nos parents.
Ouais, ils font pas un effort pour voir, t'inquiète, je passe un bon moment, tu vois. Ils sont juste là, ils croisent les doigts, ils te regardent, et eux, c'est leur manière. Moi, j'ai ça aussi quand je vais voir un concert, donc en vrai, je peux pas juger. Mais en fait, c'est frustrant, tu fais des blagues et tu te dis, mais putain, il est en train de se dire, pourquoi ils font pas des études? C'est horrible. Ouais. Et à l'inverse, quand tu
vas rigoler. Tu as la dans le dos, il fait, c'était bien.
Ouais, c'est ça. Ou même quand tu vas rigoler, par contre, là, tu es en mode, ah voilà, ouais. Je t'ai eu.
Mais c'est parce que tu te mets une petite pression en plus. Moi, il y a ma marraine qui est venue me voir il y a pas longtemps, qui est à mon avis la personne qui me trouve le plus drôle au monde. Mmh. Parce que en temps normal, je la fais rire tout le temps, mais elle rit fort, je l'entends. Elle est venue me voir à une scène et je me dis, ah, elle rit là. Et après, plus de rire, plus de rire, plus de rire. Je fais, putain, je la fais pas rire du tout. Vraiment, pendant que tu joues, je fais, elle rit pas là en fait. Elle rit pas. Mais comment, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment nul parce que c'est quelqu'un qui est déjà acquis à ma cause au départ, tu vois. Elle pourrait arriver sur scène, prendre le micro et dire le prochain c'est le plus drôle que vous avez jamais vu de votre vie, et après, en fait j'ai rien dit, il est pas en forme, tu vois.
Et c'était compliqué ça.
Et tu en as parlé après?
Ouais, ouais, non, on en a
dit. Tu sais pourquoi elle a pas rigolé? Elle a vraiment pas trouvé ça drôle ou genre juste.
Là, en fait, c'est, tu sais, t'as aussi l'ambiance du spectacle qui fait que comme les autres riaient pas non plus, riaient moins, c'est pas une scène qui s'est très bien passée. Mais il y a aussi des choses qui avaient été moins bien amenées.
C'est peut-être mieux qu'elle ait pas rigolé du coup. Ouais, voilà. Parce que sinon ça aurait été gênant pour tout le monde. Genre les gens ils rigolent moyen et il y a une meuf au premier rang qui rigole hyper forte.
Mais après, je pense que je m'étais mis aussi la pression parce que je savais qu'elle était là. Et du coup, comme j'entendais pas rire à la première, après je me suis dit, ah merde, elle rit pas. Et tu sais, quand t'es dans ta tête, bah après, tu joues moins bien, quoi.
Ouais, donc j'ai eu ça, une des toutes premières scènes que j'ai fait où ma mère était là. C'était la brouette, la première de la brouette sur la grande place, plateau du What the Fun par Nicolas. Deux fois par mois. C'est quand?
Jeudi.
Jeudi. C'était la toute première. Et donc, on connaissait pas vraiment le lieu, on savait pas comment ça se passait. Ma mère est venue parce que c'est sur la grande place, la plus belle place du monde. Pas trop beau. Et ma scène s'est pas très bien passée. Et je pense que c'est parce qu'au départ, je m'étais mis une pression de ouf parce qu'elle était là, tu sais.
Ok, ouais. Alors qu'en vrai. Enfin, tu sais, je vois,
c'est une personne.
Ouais, il y a 70 autres personnes que tu connais pas qui viennent juger un truc. Et là, t'as ta daronne et c'est elle qui te stresse le plus. En vrai, c'est bien une personne qui va normalement le moins te juger et le moins te faire de retours négatifs, c'est ta mère, tu vois.
Ouais, t'as pas envie de décevoir quand même.
Ouais, c'est ça.
Et puis même si elle aime pas, potentiellement c'est une personne qui va te revoir plus tard pour que à qui tu pourras montrer que t'as progressé. Que quelqu'un qui te trouve complètement nul, il y a de grandes chances qu'il vienne jamais te revoir.
C'était souvent on dit, ouais, si c'est un beat, c'est pas grave, les gens ils oublient. Voilà, ils oublient pas quoi, tu le revois le lendemain pour le repas quoi.
Tout le matin, alors
Et est-ce que quand vous étiez jeune, vous alliez voir des spectacles en famille, vous regardiez beaucoup de comédies à la télévision? Toi, t'as parlé tout à l'heure des Inconnus, du Bosc, de Florence Foresti, donc je suppose.
C'était YouTube surtout.
Surtout YouTube.
C'était YouTube, mais pas de spectacle.
Ok, pas de spectacle.
Sketch.
Ouais, que des sketchs sur internet, mais vraiment pas de spectacle.
Ok.
Et on me demande qu'à en rire en vidéo sur YouTube parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé à ces horaires-là.
Ok.
Donc que des vidéos, mais sinon, non, pas de spectacle. Je pense que le seul spectacle un peu drôle qu'on ait vu, c'était soit Belge et toi, qui est pas du tout du stand-up, quoi. Donc, non, pas du tout de.
C'est quoi encore ce Belge et toi?
Ça existe plus maintenant, mais.
C'est quelque chose que j'ai
déjà dit. Ils imitent les politiques et ils font des blagues sur tout.
Sur l'actualité pendant toute ton année, quoi.
C'est ça. D'accord.
Et donc, chaque année, ils refont avec les nouvelles actualités. Faut être calé politique pour comprendre les
mots. Ouais, c'est ça.
Donc tu regardais surtout des sketchs, des extraits.
Ouais.
Et est-ce que en voyant ça, tu te disais, ouais, moi je vais faire ça?
Pas du tout.
Pas du tout.
Okay. Pas du tout. Vraiment, non.
Okay. Et toi, Nikos?
Moi, j'ai regardé les mêmes vidéos en vrai. Franck Dubos, j'ai eu ma petite période aussi. Florence Foresti, pareil. Et donc tout ça, c'est sur les formats de sketchs YouTube. Honda aussi. Donc on demande qu'à en rire. Par contre, ma mère m'avait amené quand même voir des spectacles. Mais c'était genre Kev Adams dans des gros zéniths, c'était Gad Elmaleh dans des gros zéniths, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et Kev Adams. Tu vois, j'avais vu ces trucs là. Je suis allé voir le groupe.
Pas longtemps ça en plus.
De quoi?
Ça c'était pas longtemps du coup, c'était genre il y a 6-7 ans.
Ah, c'était il y a pas si longtemps, non. J'ai retrouvé les tickets, donc c'est rigolo. Et moi je sais que c'était dans cette. Je crois, je sais pas si j'avais déjà ça un peu avant, mais en tout cas, je sais déjà qu'à 16 ans j'avais l'envie de faire du stand-up parce que j'ai retrouvé un mail que j'ai envoyé à Kev Adams.
Oh,
où je dis,
trop mignon.
Tu peux avoir des conseils, s'il te plaît?
Oh, trop cool.
Et avec plein de.
Il avait répondu?
Bah non. Mais non, mais après, je vois le mail, en fait, c'est impossible qu'il réponde.
Ouais.
Non, mais parce que
je l'avais envoyé à kevadams@.
Ouais, mais alors déjà, je sais même pas à qui j'ai envoyé ce mail. Mais genre, mais non, tu sais qu'une fois, j'étais rentré en contact avec des gens. Hein. Mais bref. En fait, maintenant que je fais un peu du stand-up, que je vois mon mail.
Même pas d'Iotis.
Mais quand en fait, je vois tout ça, je me dis, il aurait rien pu répondre. Qu'est-ce que tu veux répondre à donne-moi des conseils, j'ai 16 ans, je vais commencer. Enfin, genre, avec des fautes d'orthographe, avec des trucs. À part dire.
Apprends à écrire d'abord.
Bah, ouais, c'est ça. Et genre, va jouer dans des comedy clubs. Enfin, bon, tu vas pas avoir un conseil comme ça de Kev Adams, tu vois, qui à l'époque était quand même une
star, Kev Adams,
en fait, hein. Ouais, c'est ça.
C'est beau l'histoire. Maintenant, tu fais MC parfois dans
son lieu. Comedy club. Et surtout, en fait, quand j'ai fait mon premier concours d'humour radio, qui était organisé par Kev Adams, je lui ai dit.
Sur Fun Radio.
Sur Fun Radio, ouais, je lui ai dit, ouais, je t'ai envoyé un mail, t'as jamais répondu.
Il a dit, ouais, je sais, tu m'en souviens.
Il a dit, ouais, je l'ai vu.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, je voulais t'en parler.
Il lui a dit, non, mais je t'ai répondu. Quoi? Il y en a un échange, en fait. Okay. Donc, voilà. Donc, oui, moi, j'ai découvert le stand-up, en tout cas, dans des grosses salles, style Zénith, machin. Okay. C'est ça que j'allais voir en tout cas comme spectacle. Quoi.
Et est-ce que vous avez fait du théâtre et de l'improvisation? Donc, Julien, t'as dit que tu en avais fait de l'improvisation pendant 10 ans, t'as dit?
Ouais.
Et t'as fait aussi du théâtre?
Ouais, 4 ans quand j'étais en secondaire. Athénéroal de Rick Sansard représente.
RPZ.
Technique de transition. Voilà.
Et toi, Nikos?
Moi j'ai fait du théâtre aussi durant, en fait, je crois toute ma scolarité de primaire, secondaire.
Okay.
Donc, pas régulièrement, mais tu sais, le truc que tu fais un peu en hobby, donc c'est genre une heure par semaine avec des cours de théâtre que t'as à l'école et trucs. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu la scène et le théâtre. Et j'avais bien kiffé en quittant les secondaires, j'ai repris des cours. Quand j'ai senti que je devais vraiment me lancer dans le stand-up, j'ai fait un an où j'ai pris 12 heures de théâtre par semaine. Où en gros j'étais à Namur et j'avais pris des cours à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles, à machin. Et en fait, tous les jours de la semaine, j'allais à un endroit différent pour faire mon cours.
Okay.
Et ça, j'avais fait ça pendant plusieurs mois parce que le but était en fait de me lancer dans mon truc, tu vois. Et okay. L'année d'après, c'est là où je me suis lancé.
T'as fait de l'impro aussi.
Et j'ai fait de l'impro à Namur du coup un an et j'ai trop kiffé. Et j'aimerais bien reprendre.
Alors ça, c'est un mensonge parce qu'en vrai, on n'a pas le temps.
Mais je sais. Ouais, mais ça aurait été trop cool parce que j'aimerais vraiment bien. Non, en vrai, c'est chiant parce que déjà, même
ça prend un temps fou. Et en plus, en plus, si tu t'investis pas dans la troupe, t'es vraiment chiant parce que t'es juste le gars qui vient jouer et qui repart
parfois,
après.
Ouais,
et
qui parfois vient pas. Enfin, ouais. Tu vois.
C'est pas très.
Non, cool, moi j'ai toujours une équipe où on s'entraîne on a un coaching par mois. Okay. C'est une équipe de potes qui ont tous des équipes à côté. Et le but, c'est juste de se retrouver. Ah, et cool. Déjà, là, une fois par mois, je suis déjà pas très investi. Ouais. Et je m'en veux, tu vois, je m'en veux parce que c'est vraiment des potes. Et du coup, je leur fais porter, une charge mentale d'organisation et tout. Mais juste, je kiffe trop garder quand même.
Je comprends. Et est-ce que tu sens que l'impro, c'était utile maintenant que tu fais du stand-up?
On va pas mentir, hein. Je pense que l'impro, ça t'apprend à être à l'aise sur scène. Mm-hmm. Après, c'est deux exercices différents. Hein. Vraiment. Ouais. Genre, même l'impro que tu vas faire avec des gens, genre une interaction publique, c'est pas de l'impro. C'est deux exercices différents. Mm-hmm. Moi, ça m'a aidé à être à l'aise sur scène. Okay. C'est pas la même chose.
Je pense que c'est le vrai truc, c'est surtout l'aisance sur scène, quoi. En fait, il va se retrouver dans un auditoire de 400 personnes et ça va, tu vois. Dans le sens où, ça va. En tout cas, quand tu le vois, ça va, tu vois. Il va être là, libre de ses mouvements, mais savoir parler et tout. Là où, en fait, on se rend pas compte, mais il y a des gens où tu les mets devant un auditoire de 400 personnes, ils sont tétanisés, tu vois.
Ouais.
Et en fait, là, du coup, lui, quand il a commencé le stand-up, en fait, il avait déjà ce truc d'être en contact avec la scène, tu vois. Et moi aussi, j'avais un peu ce truc-là quand j'ai revu il y a pas longtemps la vidéo de ma première scène. Et c'est vrai que ça a l'air d'être, je suis assez à l'aise. Bon, on voit, il y a plein de tics il y a plein de trucs qui vont pas, mais en fait, et c'était mon rapport à la scène avec le théâtre et mon groupe de musique qui, en fait, j'étais déjà habitué à monter sur scène devant une foule et que tout le monde te regarde. Et en fait, maintenant, après, le seul truc à apprendre, c'était de leur parler et les faire rire, quoi. Mais en tout cas, l'aisance de l'endroit, la scène était déjà maîtrisée, quoi, tu vois.
Ok, ouais, c'est vrai que moi, des fois, quand j'essaie de me rassurer sur scène, je me dis, si ça se passe pas bien, t'as déjà été sur scène avec aucun texte, donc tu vas pas mourir, quoi. Tu sais que tu peux le faire, mais
tu vas jamais mourir. C'est jamais grave, en fait.
Ouais, c'est ça, mais c'est dur de se le dire avant de monter sur scène.
Non, ouais, large.
Et qu'est-ce que vous avez fait tous les deux comme études?
Bon, ça va être rapide. Hein.
Nikos.
j'ai commencé.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ingénieur de gestion à Namur, 2 mois. J'ai vu la taille des syllabus.
Qui est l'équivalent d'une école de commerce.
Qui, voilà. Et c'était. Je me suis vraiment dit, mais alors pourquoi je me suis menti autant à moi-même pour me retrouver dans cette situation?
C'est la pression sociale. Tu es dans une école où tout le monde fait ça, tu vas pas faire autre chose.
Ah ouais, mais tu sais, j'arrive et je vois les syllabus. Frère, c'est des trucs, mais énormes. Et moi, j'étais là, mais jamais de la vie. Jamais, écoutez-moi bien. Jamais de la vie, je lis tout ça. C'est sûr. Et genre, après 2 mois, j'ai dit, vas-y, c'est ciao, quoi. J'ai fait marketing pendant 1 an, à Namur toujours. C'est là que j'ai pris mes cours de théâtre. Et puis, j'ai dit, c'est ciao. J'ai pris espagnol, frère. Je parlais pas du tout espagnol. Et là, je parle toujours pas espagnol. D'ailleurs, j'ai eu des situations hyper drôles avec ça, je crois. Où, tu sais, la prof, elle te demande d'aller au tableau. Je suis au tableau. Je pète pas un mot d'espagnol. Elle me dit, vas-y. Je suis madame, je suis désolé, il y a rien qui va sortir, quoi. Alors, ouais, mais du coup, je termine marketing, et puis je passe à Bruxelles, et là, je fais communication à l'IEX.
Et du coup, tu vas arrêter pour le stand-up?
Là, pour l'instant, tu profites du système formidable.
Ouais.
Des allocations familiales.
Tu sais, quand tu commences le stand-up, c'est impossible d'en vivre. C'est temps de se mettre dans le milieu. Il faut juste aussi que le milieu grandisse. En Belgique, on était, il y a 3 ans, c'était pas comme maintenant, tu vois. C'est ouf. Donc, et en vrai, les études ont quand même été assez complémentaires. Je pense que toi, c'est l'IEX en communication. Et donc, c'est quand même, mine de rien, s'il y a des études à faire, je pense que c'est celles qui sont assez complémentaires. Tu vois, parce que t'apprends à gérer un logiciel de montage, un truc de pour faire des podcasts, t'apprends à faire des photos, puis après il y a tout le côté juste communication, tu vois, et puis même gestion de projets, d'événementiel, tout ça. Donc c'est intéressant, c'est cool. Moi, c'est juste que le format d'études me correspond pas. J'ai remarqué depuis le début de ma scolarité, j'ai jamais été dans ce délire-là, et ça, voilà. Du coup, je pense que voilà, ça m'a quand même appris des trucs. J'en ai quand même tiré des positifs, mais je sais que mon but final est de faire du stand-up. Donc ouais, l'année prochaine, je vais essayer de me lancer à fond dedans et on verra quoi.
En tout cas, pas te lancer à fond dedans, tu vas plus avoir ce filet de sécurité parce que t'es déjà à fond dedans.
Oui, je suis déjà à fond dedans. En tout cas, je l'accepte et je prends confiance en mon projet, quoi. En gros.
Cool.
Ah, voilà.
C'est trop bien.
Moi, j'ai fait de l'économie. Voilà.
Voilà.
Ah, c'est moins pratique pour faire de la scène, hein, mais c'est bien.
Là,
c'est
pour
bien,
le côté business de la scène.
Ouais, vraiment, c'est pas du business, c'est l'économie. Hein. Non.
En le disant, je me suis dit, quoi, c'est pas la même chose.
Ouais, je fais de l'économie.
Et du coup, maintenant, tu travailles?
Ouais, aujourd'hui, okay. Je travaille, je fais de la recherche en économie, justement. Voilà.
on sent la passion, quoi.
Ouais, vous savez, non. Non, c'est cool, c'est intéressant, mais c'est pas du boulot de faire une thèse. La partie que je préfère, c'est de donner cours. Je le dis parce que mon promoteur parle allemand et n'écoutera sans doute jamais ce podcast. Ou alors ça serait bizarre et je le salue. Mais en vrai, la recherche, j'aime bien, c'est cool et tout, mais l'esprit est ailleurs.
L'esprit est au stand-up.
Bah d'ailleurs, on y arrive. Comment vous êtes arrivé à faire du stand-up? Comment vous vous retrouvez à faire votre première scène et comment ça se passe?
Premier confinement, je passe.
T'as fait une petite scène avant, t'as dit?
Non, premier confinement, j'ai rien fait.
Ok, premier confinement.
Premier confinement, j'ai rien fait. Okay. Et je suis.
Tu vas être le cliché du gars qui a commencé
non, pas
le
du
confinement.
Non, en fait,
ça me saoule ça.
En fait, je connaissais déjà Rudy. Je connaissais déjà Rudy du What the Fun et il me disait déjà mais fais du stand-up. Et moi, j'étais vraiment là. Alors vraiment, moi, je fais de l'impro, mais me mettre tout seul et mettre en péril mon ego, c'est mort, quoi. Genre, t'es trop peur, tu vois. Et puis je consommais beaucoup là. À l'époque, je consommais vraiment beaucoup de stand-up. J'allais déjà voir des spectacles à Paris, machin. Puis je me suis dit, mais en vrai, il y a un monde que tu peux trouver où ça peut être cool à faire. Et j'en parle à Rudy. Premier confinement, je consomme énormément de stand-up avec ma coloc de l'époque, Clarisse. On consomme vraiment beaucoup de stand-up. Et on commence à écrire des trucs. Pas forcément stand-up, mais on écrit pour le plaisir, pour faire passer le temps. Et puis fin du premier confinement, je me dis, vas-y, la vie elle est trop courte. Essaye au moins, juste essaye, c'est marrant, tu vois. Je fais une scène, deuxième confinement. Et puis la suite, vous la connaissez. Okay. Pas parce que je suis pas connu, mais après j'ai continué.
Ok, mais ta première scène, donc c'est 6 minutes à Los Amoales.
Ouais.
Comment ça se passe? De quoi tu parles?
Alors, bien, parce que moi j'ai une théorie, c'est qu'une première scène, ça se passe toujours bien.
Ouais,
à part si vraiment il y a une dinguerie, mais il y a une espèce d'aura magique autour de la première scène.
Bah, quasiment, dans tous les invités que j'ai eu pour le moment, je pense que quasiment tout le monde, la première scène s'est bien passée.
Ouais.
Donc, ta thèse a l'air de fonctionner.
Moi j'ai vu une première scène pas bien se passer quand j'étais à Paris, mais parce que le gars a oublié son texte et puis après ça l'a fait paniquer. Je pense qu'il se mettait une pression de ouf, mais le gars était bon, donc c'est dommage, mais ça s'est bien passé. Et je parlais de ma peur des écureuils. Voilà, j'ai plus jamais refait. Ah si, je l'ai fait une fois après, et puis après je me suis dit c'est marrant, mais faisons autre chose.
Et toi Nikos, ta toute première scène?
Toute première scène, c'était au Floréo, c'est un bar du What the Fun. Enfin, là où il y avait des scènes What the Fun où il y avait souvent des premières fois et après ça s'est fini, donc c'est dommage.
Mais comment tu t'es retrouvé déjà à connaître l'existence du Floréo et du What the Fun?
Ah bah en fait j'étais encore à Namur à cette époque-là, je pense, et je m'étais renseigné sur qu'est-ce qu'il y avait. Je me demande si j'ai pas demandé sur soit sur Google, soit sur je lui demandais à quelqu'un sur Google, c'est bizarre de dire ça.
J'ai demandé sur Google.
Dis Google. Ou alors c'est quelqu'un qui m'a parlé du What the Fun, je sais plus trop c'était lequel, mais en tout cas je suis allé voir une scène au Floréo du coup, pour parler à Rudy. Je l'ai rencontré et Raph et je leur ai expliqué. Ils m'ont dit ok, très bien, mais écoute, on te met sur le formulaire. Donc dans 3 mois, t'auras un truc. Et donc j'ai attendu 3 mois. En attendant, je me suis exercé, j'ai écrit. Et en fait, j'ai remarqué que je travaillais vraiment beaucoup.
Plus que maintenant.
Ouais, ouais, vraiment. Parce qu'en fait, j'écrivais mes trucs. Mm-hmm. Je me souviens que je me reprenais la tête et tout. Et ça parlait. Ma première scène, ça parle de mon corps. Enfin, c'est normal. De mon corps, le fait que je suis mince, le cote, tout ça. Et je m'étais exercé de ouf et j'ai retrouvé une vidéo de ça et c'est l'enfer. J'avais joué devant mon groupe de théâtre.
Ok.
Et j'ai fait ça à 3 de mes cours de théâtre où à la fin du cours j'ai dit voilà, j'ai envie de me lancer dans stand-up. J'ai écrit un 10 minutes, est-ce que je peux vous le faire quoi. Et donc ils disaient ouais, ok. Donc ils se mettaient en ligne à 8 ou 9. Voilà. C'est horrible.
C'est horrible, mais c'est trop bien que t'aies pu le faire quoi.
Ah ouais, ouais.
Et que t'aies osé le faire aussi parce que.
Ah bah, vraiment, quand je suis en train de parler, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me bousiller, c'est horrible, tu vois. Mais par contre, je testais vraiment mes vannes.
Pire qu'une scène au Coesio.
Franchement, ouais, parce qu'en fait, tu connais les 10 personnes, c'est des gens de cours de théâtre et tout. T'as à la fin, tu fais un truc, tu sais pas si c'est faux, c'est vrai, bref.
Ma première scène, c'est ça aussi.
Ah ouais, mais
ah ouais.
Ma première scène, c'est devant 15 amis en demi-cercle devant moi dans une salle de fête toute petite, mais en demi-cercle comme ça, juste devant moi, pleine lumière, avec quelqu'un qui est au premier, qui fait, mais c'est pas drôle, hein. Mais tu sais que je suis juste là, je t'entends, tu vois. Si tu respires fort, je le sais, mais si tu parles, je l'entends, tu vois.
Déjà, ils oublient ça.
Mais donc, t'as pu tester ton cours de théâtre.
Ouais, du coup, j'avais testé et tout, et puis après, j'ai fait ma première scène, ça s'est bien passé, j'avais bien kiffé, j'ai eu des bons retours, du coup, ça m'a donné envie de continuer. Et... Après, je pense que j'ai direct. Je sais plus d'où, de quand c'est venu ce truc d'humoriste, mais c'est vraiment. Ça fait longtemps quand même que je sais que j'ai envie de faire ça, quoi.
Ok. Et après cette première scène, ça s'est enchaîné comment pour vous?
C'était très graduellement. Moi.
Bah, moi, confinement.
Ah, du coup, ouais.
Confinement, et puis après, très vite en vrai.
Mais très vite. Dans la bonne période, et en plus.
Très vite, parce que je suis arrivé déjà dans une période un peu faste, en mode. Les gens, ils avaient la dalle, donc plein de création. Et puis en fait, moi, j'ai comme adage dans ma life, c'est que personne ne le fera pour toi. Genre, moi, je suis personne en fait. Donc, si. J'attends, bah, je vais rien voir quoi.
Ouais.
Donc, bah, en fait, là, j'ai parlé à Nikos, j'ai parlé.
Ils ont trouvé des bonnes personnes.
Et c'est pas vraiment ça, mais.
Il a un mentor.
et du coup, bah, on a créé ses propres opportunités aussi en fait.
Ouais, c'est juste
donc,
ça.
Donc, en fait, tu y joues, puis t'invites des gens, puis les gens, bah, du coup, ils te voient, et puis du coup, t'es invité, puis tu parles aux gens.
Ouais,
puis,
ça, tu fais des potes, machin.
Tu fais des potes, tu. Ouais, voilà.
Puis t'es super sociable, et du coup, tu t'arrives à avoir des.
On en a déjà parlé, ça, c'est une théorie différente.
C'est une théorie que j'ai, mais clairement, t'es dans le stand-up depuis du coup le confinement. Et tu connais plus de gens que moi, tes potes avec plus de gens que moi.
Oui, tu parles beaucoup, t'aimes bien.
T'es sociable.
Oui, mais parce qu'on a des choses à se dire, tu vois. Genre là, je sais de quoi je vais parler. Genre si on va sur un autre sujet, je vais pas du tout kiffer. Genre je déteste parler avec les gens en dehors de la scène. Genre les gens du public. Je le fais quand je fais MC parce qu'en fait ça fait partie du boulot, tu sais, d'aller trouver les gens, nanana. Mais sinon je déteste ça. Les gens qui viennent te trouver après une scène et qui parlent et tout en mode ah oui, horrible. Et pourtant il faut le faire.
Mais t'as cette capacité quand même à aller vers les gens pour aller leur parler des trucs de scène et tout que moi je fais pas ça. Même avec des gens que je connais bien.
Si tu le fais, sauf que tu le fais différemment.
Oui, mais par exemple
avec un micro.
Jamais j'irai voir un humoriste que je connais et lui parler de faire sa première partie, par exemple. Pour moi c'est impossible de faire ça. Et pourtant je connais.
Ça je le fais pas, à part avec les gens que je connais vraiment bien. Genre je l'ai fait avec Florent, Gaëtan, Nikos et Sacha, c'est tout.
Ok, ouais, mais tu vois par
et
exemple.
Et Dena aussi, Dena.
Ino, je le connais depuis genre 2015 et je lui ai demandé une fois pour une première partie par message et j'étais en panique.
Oui, il t'a dit oui.
Oui, mais
voilà.
Tu vois, c'est pour te dire à quel point.
Ouais.
Dans le fait, j'admire ce truc-là, je trouve ça super chouette. Ouais. Moi, pour moi, c'est un point positif de ouf.
Non, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, si toi tu le fais pas. Bah, ce sera à Nikos qui aura ta première partie, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et voilà.
Ah ouais, mais j'admire ce truc-là, quoi, c'est cool. Mais du coup, ça s'est enchaîné rapidement après. Ouais. T'as fait vraiment beaucoup de scènes, parce que moi j'ai regardé tes réseaux sociaux pour regarder un peu des infos et tout ça. Et je voyais 2021-2022, t'as des. Pour chaque mois, t'as plusieurs dates et vraiment pas mal, quoi, c'est cool, quoi. Et toi, Nikos, après ta première scène?
Moi, après la première scène, j'ai pris vraiment le chemin normal, dans le sens où ça s'est enchaîné petit à petit. Je me souviens qu'il y a eu le concours du Next Prince, pas très loin après, parce que j'ai commencé en. Ah, mais non, quoique. Moi, j'ai commencé en avril, c'était ma première date, 19 avril 2018. Et je crois que j'ai fait l'édition hiver, donc ça devait être en septembre, le Next Prince.
Octobre, septembre.
Donc, ouais, en fait, et après, moi, je sais que mes scènes, elles étaient hyper espacées. Il y a eu juste le Next Prince qui a fait un peu plus. Mais après, avec le What the Fun, en tout cas, c'était une scène tous les mois ou deux mois, tu vois. Et donc, au début, c'était très lent, c'est impossible de travailler, tu vois, genre, c'est un peu relou. Puis, ça commençait un peu à s'accélérer. Il y a eu le premier confinement. Quand je commençais, moi, je sentais que c'était mon apogée jusqu'à ce moment. Ce qui est normal, parce qu'en fait, ça va toujours graduellement vers le mieux. Mais à ce moment-là, je commençais. Mais à ce moment-là, je commençais à avoir les premières parties de Guise et tout. Et puis, le confinement est tombé et ça m'a foutu le seum. En fait, là, j'ai l'impression de tout s'écrouler, de tout ce que je viens de construire, tu vois, depuis à peu près un an. Il y a eu les confinements et après, maintenant, c'est après les confinements. Là, je trouve que c'est. En fait, c'est après le Covid que je trouve que c'est maintenant le vrai début, tu vois. En fait, maintenant, c'est le vrai début parce que j'ai compris le système, le milieu, un petit peu, plus qu'avant. Il y a des scènes où tu peux travailler et puis. Et ouais, juste, c'est ça. Enfin, t'as pris un peu d'expérience. Donc, c'est maintenant que tu rentres vraiment dans la vraie partie du taf, tu vois, devenir meilleur et de travailler tout simplement.
Et est-ce que vous avez tenté les festivals d'humour, les concours dont t'as fait le Next Spring, si t'as été jusqu'en demi-finale?
Je crois une partie finale, non? T'as pas fait
demi-finale?
J'ai fait demi-finale, finale et.
Ouais, t'as fait finale, je croyais que t'en avais fait qu'une fois. Excusez-moi.
Ah, j'ai fait trois fois le Next Prince.
Il a perdu trois fois.
J'ai perdu contre Fanny Ruet, donc ça va.
Oui,
ça va. Ça fait plaisir. J'ai perdu contre Denis Richir, donc
ça va aussi.
Et qui m'avait humilié d'ailleurs.
C'est
et
vrai.
Et Igor, je crois.
D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo de Denis qui humilie Nikos, c'est toujours sur le Facebook de Denis Richir.
Ouais.
Et Denis est dans les anciens invités du podcast aussi, si vous l'allez écouter.
En plus,
on parle d'ailleurs de cette demi-finale dans l'épisode.
Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai fait des festivals d'humour, j'ai fait Rochefort, Bastogne, Next Prince, je sais plus quoi, j'ai tout raté et j'ai envie d'avoir la carrière du gars qui peut dire non, il faut pas de concours pour gagner.
Rochefort, t'as juste fait les premières parties, t'as pas fait le concours.
Je l'ai fait, mais en vrai je l'ai fait avant le Covid, enfin, genre tu vois, j'étais pas prêt non plus à faire des concours en fait.
T'as pas fait Namur Is a Joke aussi?
Non,
tu n'avais pas fait les castings.
Non,
il a fait les castings, mais je lui ai dit, Nikos, tu vas pas pouvoir le faire parce qu'on a une date du KCT.
Ouais. on avait un vendredi de 20 et une date du KCT. C'est ça, c'était le vendredi soir, on avait
Christiane
et jeudi, on avait le KCT.
Ouais.
Et toi, Julien, les concours
Non, parce que depuis que j'ai commencé, il n'y a pas eu quoi que ce soit. J'ai juste fait les auditions pour faire la première partie à Rochefort, qui se sont bien passées. J'ai eu une première partie, c'était cool. L'expérience de l'audition. Était intéressante.
Ouais, c'est des conditions difficiles aussi. Hein.
De ouf.
Ouais.
Déjà, le terme audition en stand-up, c'est compliqué. Quoi.
Ouais. Mais c'était cool parce que ça m'a permis de faire autre chose, rencontrer des gens. C'était cool.
C'est une audition pour quoi?
Pour Rochefort.
Moi, parce que pour le MIB, j'avais fait les auditions. Et... Ça t'a déjà fait ça aussi?
Aussi, ouais.
C'est l'enfer. Hein. T'es au MIB, il y a deux personnes devant toi. Sarah et. Je sais plus.
Et une dame.
Et donc, moi, il y avait que Sarah. Moi, il y avait que Sarah.
C'est une dame dans la rue qu'elle avait pris.
Je suis vraiment pas gentil là, mais j'ai oublié. Et ouais, en fait, tu joues devant une personne, quoi.
C'est horrible. Dans un bureau, il y a Sarah qui prend des notes. Après, c'est parce qu'elle veut s'assurer qu'il y ait.
Tu joues où, toi, dans le bureau?
Moi, j'étais dans un bureau avec elle qui était assise à un bureau, qui prenait des notes. Et il y avait une autre dame qui était à la fenêtre, qui fumait.
Ah, moi aussi, elle fumait à la fenêtre.
et j'ai fait un 5 minutes devant elle. Donc moi, j'ai fait une heure de route pour ça. J'ai fait mon 5 minutes et elle a fait merci. Et je suis rentré chez moi et j'ai été pris. Donc c'était super cool parce que après, c'est une super scène chouette devant un public et les professionnels qui viennent et tout. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Mais le casting est vraiment dur.
Wow.
Mais maintenant elle a, comme il y a beaucoup plus d'opportunités de voir les gens, elle a l'occasion d'aller voir des scènes et d'entendre un peu plus des retours. Donc, je pense que maintenant elle ne fait pas les castings obligatoirement.
Il faut pas faire ça.
Mais elle le faisait aussi à une période où il n'y avait pas tant de scènes que ça. Si elle voulait voir les gens.
Ah non, mais c'est pas ça que je blâme. C'est l'artiste qui va se mettre dans cette.
Moi au début, en fait, tu veux des scènes et donc t'es prêt à faire des trucs, tu vois.
Ah ouais, mais
c'est pas une scène ça. Tu la comptes pas dans tes scènes.
Ah non, mais par contre, tu sais que ça peut te donner un accès à des scènes après. Donc, tu dis, je pense au moins pour là. Après, tu le savais pas. Moi, je savais pas que c'était comme ça non plus.
Ah ouais, mais
bon. J'ai fait une audition, je dis, ok, cool, je viens. Et puis, je vois qu'il y a une scène. Enfin, tu sais, le mime, quoi. Une scène vide, une table et tout. Et ils sont là et t'es en mode, vas-y.
Ouais, tu l'as fait au MIB, quoi. Moi, je l'ai fait. J'aurais pu le faire dans cette pièce-ci, quoi.
Putain, c'est l'enfer. Moi, j'étais quand même sur scène, donc ça m'a quand même. Mais en vrai, t'as ce truc de. T'as zéro rire, tu dois quand même ton texte de ouf et tout donner comme s'il y avait des rires, quoi.
C'est ça.
Et puis, avant, pendant mon sketch, la madame qui fumait voulait rentrer. Du coup, j'ai dit attends deux secondes. Et donc, je me mets en pause. Elle va ouvrir et puis elle revient. Je lui ai dit vas-y, c'est bon. Ok.
C'est pas mal.
C'est vrai.
Et Nikos, t'as aussi fait rapidement une première chronique à Fun Radio, puis t'en as fait sur Radio Contact, puis sur Typique.
Ouais.
Est-ce que c'est un exercice, la chronique, qui te plaît et que tu voudrais encore refaire?
Non. Non, en vrai, si, ça, je sais pas si ça me plaît en vrai.
Ok.
Parce qu'il y a quand même une grosse pression. Moi, j'aime pas le côté. C'est vraiment one shot, tu vois. Mm-hmm. Genre, ça passe, c'est cool, ça passe pas, bah tant pis, c'est trop tard, tout le monde a déjà entendu, tu vois.
Okay.
Donc, c'est un peu relou. Puis, ça, c'est plus personnel, c'est en termes de juste de d'autodiscipline, de savoir bien travailler mes chroniques avant de les faire. Au plus, en fait, vu que ça fait 3 ans que je fais des chroniques, j'avoue que je délaisse un peu le travail qu'il y a à faire pour une chronique, j'ai un peu minimisé, tu vois.
C'est
vrai. Ah, ça, ouais, et du coup, si je reprends une chronique une saison l'année prochaine, il faut vraiment que j'arrive à mettre une constance d'écriture pour faire des bons trucs, parce que c'est quand même une belle opportunité, c'est quand même une chouette vitrine, en fait, tu vois, le principe des chroniques, par contre, c'est quand même différent du stand-up. Après, moi, ça te force, mais ça fait 3 ans que, allez, en plus ou moins, quoi, mais que toutes les semaines, je vais écrire un truc, tu vois. Donc en vrai, mine de rien, ça travaille ton écriture, machin. Donc c'est un bel exercice, c'est de la vitrine. Et j'ai eu quand même à chaque fois des chouettes expériences en soi.
Bah ouais, à fond. Et toi, Julien, est-ce que l'exercice de la chronique, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser?
Ouais, voilà. Ouais, ça pourrait m'intéresser parce que j'aime bien écrire. J'aime bien écrire et j'ai l'impression que à Bruxelles, on n'a pas assez de scènes. Même si tu joues une fois par jour, ce qui n'est pas mon cas, même si tu joues une fois par jour, c'est pas assez pour vraiment travailler ton matos que t'écris. Et j'ai l'impression de parfois écrire davantage que ce que je joue, tu vois. Mm-hmm. Donc là, ça va faire 9 mois que je travaille par le même contenu de 15 minutes. Mais parce qu'en fait, c'est de la musique. Et donc peut-être la chronique, ça me permettrait de pouvoir faire ce que j'écris aussi. À voir.
Et vous êtes tous les deux allés jouer plusieurs fois sur Paris. Nikos, t'as joué aussi au Caustic Comedy Club en Suisse. Au Red Line à Montpellier. Oui. Est-ce que vous avez remarqué des différences par rapport au public belge? Est-ce que ces expériences-là, ça vous permet de progresser en stand-up quand vous quittez un peu les murs bruxellois?
Mais alors, moi, c'est marrant parce que je remarque pas vraiment de différence entre les
deux. Si, il y a une différence. Il y a une différence qui est, en tout cas, par exemple, quand tu joues au Paname, les gens
ont les codes.
Connaissent les codes.
Oui, moi, c'est
genre,
ça.
Genre, t'as 5 minutes.
Quand tu vas à Paris.
Ouais, non, oui. Quand tu vas au Panama Café. Parce que j'ai pas joué dans beaucoup d'autres endroits. Enfin, si, j'ai fait d'autres endroits, mais au Panama Café, c'est là où ça m'a frappé le plus. T'arrives, les gens, ils ont les codes. Genre, y a pas de. Tu sais, tu dois pas arriver en mode, c'est quoi le stand-up? Ouais, qui a jamais ça. Vu de stand-up? Même les gens qui ont jamais vu de stand-up, en fait, ils connaissent, tu vois. Ouais. T'as 5 minutes et tu peux y aller, tu vois. Okay. Alors qu'en Belgique, tu dois parfois dire, voilà, ça, c'est une blague, voilà ce qu'on va vivre ensemble, tu vois.
Oui, t'es obligé d'expliquer tout avant le stand-up, ce que c'est le stand-up, et si tu le fais pas, tu te rends compte que, ah merde, j'ai oublié d'expliquer c'était quoi le stand-up avant le spectacle, et les gens n'ont pas compris qu'il va y avoir des interactions comme certains dans le public d'Avignon.
Ouais. Ça, c'est la grosse diff, je pense.
Moi, je dirais aussi ça.
Mais je sais pas si ça aide à progresser, mais en tout cas, c'est cool.
Ouais, moi, je pense que c'est plus la différence, c'est les gens qui connaissent le stand-up et d'autres pas, mais en vrai, les lieux, je sais pas si on peut vraiment catégoriser le public avec des lieux, tu vois. Après, tout le monde a l'air de le dire, mais moi, la différence entre Belgique et France, en fait, tu veux autant tomber sur des mauvais publics en Belgique que des bons publics en France, inversement, et donc en fait, juste, c'est des soirées où ça vient, mais à part, par contre, la seule différence, c'était à Montpellier.
Okay.
Où là, c'était où?
Moi, je vais à Montpellier normalement aussi.
Au Red Line?
Ouais.
C'est très cool, hein. En fait, c'est. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend encore. Il y a eu plusieurs. J'ai joué 4 fois là-bas. Enfin, je devais jouer 4 fois, j'ai joué 3 fois. Et en fait, il y a eu une, c'était ouf, mais ouf, ouf. Genre, des applaudissements toutes les phrases presque.
Wow.
Genre, c'était vraiment abusé. Genre, limite, c'était trop. Et d'autres où c'était plus dur. Donc, en vrai, même là, à Montpellier, ça veut pas dire qu'à Montpellier, c'était cool. C'est qu'il y a une soirée où les gens, ils étaient hyper, hyper chauds. Donc je sais pas, après apparemment il y a quand même des différences entre la Provence et capitale et
la
tout.
La Provence.
La Provence
c'est là où c'est à Avignon.
Là voilà, c'est ça que je voulais dire.
C'est ça que je voulais dire. Ah, pardon,
non mais tu sais, peut-être une différence entre les capitales et autour, tu vois, où genre je sais pas, peut-être qu'il y a plus ce truc de. Je sais pas si c'est des clichés ou pas, mais tu sais qu'il y a
c'est
moins de soirées et du coup ils, je sais pas, ils donnent plus ou genre, ils sont moins stressés ou j'en sais rien. Peut-être ça joue un petit peu, mais moi j'ai pas.
Mais après, ouais, après la vérité. Enfin, moi, je suis MC au Black Sheep. C'est que des Français dans la salle. Hein. Donc, en vrai, à Bruxelles, le public est aussi plein de Français. Donc, d'ailleurs, nombreux sont les humoristes qui en rigolent du fait qu'il y ait beaucoup de Français. Parce que c'est cool, tu vois. Mais non, je pense pas que ça change grand-chose. La vraie différence, par contre, je trouve... Après, ça, c'est sur Paris. Je sais pas pour mon populier, par exemple. Mais c'est qu'ils sont tellement qu'il n'y a pas le temps à la bienveillance, quoi.
Okay, ouais.
Vraiment, il n'y a pas le temps à.
Donc, tu parles entre humoristes.
Ouais, entre humoristes. Y a pas, c'est pas bon, on va pas te faire de retour, on va pas. Et en fait, le seul retour que t'as, ça va être les rires du public, quoi. Et c'est ça qui te fait avancer. Et ça a un côté positif, et en même temps pas positif, quoi. Moi, je trouve ça trop cool d'avoir des moments de groupe, vraiment. Ouais. Parce que, en fait, on est tous dans le même bateau et bien, on est un peu ensemble.
Ouais.
Ça, c'est la grosse différence. Mais sinon, il n'y a pas de différence.
C'est parce qu'on était habitué à un truc vraiment cool à Bruxelles, je pense.
Franchement, c'est bien. Ouais. C'est quand même vachement bienveillant.
Presque trop.
En tout cas, l'expérience que j'ai, moi, est ultra bienveillante. Je suis sûr qu'il y a. Il y a des trucs qui sont moins cool qui sont passés, c'est sûr. Oui. Mais franchement, j'ai pu discuter avec tous les gens avec qui j'ai fait des scènes, quoi.
Ouais.
Non, mais on est hyper bienveillant, hyper gentil avec les autres. Donc moi, comme je disais, peut-être parfois un peu trop, dans le sens où je trouve que c'est un milieu où parfois il faut être honnête et dire les choses. Tu
vois. C'est dur d'avoir un retour vrai sur ce que t'as fait.
Voilà. Surtout les débriefs, quand on faisait des débriefs au What the Fun, par exemple. C'est à la fin des scènes, pour expliquer, en gros, on se mettait tous à la. Donc tous les humoristes qui avaient joué le MC, on se mettait autour d'une table, on disait voilà, comment ça s'est passé, comment vous avez aimé la scène. Donc tout le monde parlait et disait, moi j'ai bien aimé, moi j'ai pas trop aimé, machin, machin. Et puis on disait, ok, moi ce que je te conseille, c'est ça. Et tu sais, on faisait un retour sur les gens. Mais il y avait jamais des vraies critiques, tu vois. Moi j'avais fait ma première scène, on m'a dit non, c'était trop bien et tout. On m'a que saucé, je l'ai dit, mais frère, c'est ma première scène. Si maintenant tout va bien, dites-moi des trucs que je retravaille, tu vois. Genre.
Ouais.
Et donc, j'étais un peu frustré de ça au début, je me souviens.
Toujours.
Toujours maintenant. Et je voulais rajouter un truc avec Paris. C'est, moi j'ai vraiment marqué ça quand je suis parti un mois et j'ai joué du coup sur des plateaux où je connaissais jamais les gens ou alors je les connaissais vite fait et tout. Et en fait, à la fin, t'as un truc de. Ça te manque un peu de connaître des gens et tu sais. C'est le premier mois où j'ai remarqué ça que c'était vraiment un taf parce qu'en fait, je venais, il n'y avait pas de plaisir, c'est juste je venais, je faisais mon taf et donc je kiffais sur scène. Mais avant, après, il n'y avait pas spécialement de cool truc. Et c'est là que ça m'avait manqué à Bruxelles de arriver et avoir que des potes sur ta line-up, c'est trop cool en fait, tu vois. Et là, quand tu fais que un mois en dehors de ça, t'as plus tes repères, tu connais pas les gens, c'est moins fun et tout. Et donc, c'est vraiment le côté de travail qui revient de bah oui, en fait, c'est pas que pour le kiff, là tu viens de travailler, tu vois.
Okay.
Moi, j'ai eu de la chance comme ça, pour ça. Quand j'ai joué à Paris là, une semaine en juin, où je jouais tous les soirs plusieurs fois et tout, à chaque fois, il y avait des gens que j'avais déjà rencontrés quand ils étaient venus en Belgique.
Okay.
Genre à plein de reprises, j'avais genre Adrien Montoski sur le plateau. Ouais. Du coup, c'était cool, tu sais, ok, c'est bon, je connais quelqu'un.
Et jusqu'à maintenant, quelle a été votre pire et votre meilleure scène?
Meilleur, ça va être dur à dire. Pire, ça va. Non, quoi que.
Moi, je pense que je crois qu'une de mes pires scènes, c'était justement sur ce plateau où j'avais été invité par Nathan et Léandre à Paris, au Boudu, où toi t'as joué, où ça s'était hyper bien passé. Mm-hmm. Ils font la chauffe et je sens que c'est tendu, tu vois. Il s'est passé genre plusieurs dingueries avant le plateau. Un gars où on parlait dehors, il nous a dit, excusez-moi, mais j'aimerais bien que vous parliez moins fort. Genre comme, tu sais, genre les astres étaient pas alignés. Tu sentais l'ambiance un peu bizarre.
Ouais.
Et il fait la chauffe dure, mais dure. Et moi je passe premier. Je suis grand sur le plateau. Je sais pas comment me mettre physiquement, machin. Ça sent la chicha fraise dans la truc. Et vraiment j'ai pris un bide. Oh là 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 là. Et derrière les humoristes, ils ont pas pris des bites, mais ça, c'était pas la soirée, genre, les gens ils sont pas sortis en mode, passez une bonne soirée. Ils sont sortis en mode, je passe une soirée, quoi.
C'est déjà un peu rassurant, parce que quand tu fais vraiment un beat complet et que tout le monde cartonne, là c'est compliqué.
Ça pique,
tu
te dis.
Mais c'était très cool parce que, en fait, du coup, bah, j'ai rencontré des gens vraiment, puis on a pu vraiment parler, on a passé la soirée ensemble, on a bu un verre et tout, donc c'était pas un mauvais souvenir, tu vois. Je suis pas rentré chez moi en mode, mais c'est vrai que tu te dis, moi je viens à Paris pour jouer, et puis c'est ça qui se passe, l'enfer, tu vois.
Là, moi je dirais, c'est pas non plus la pire et tout, mais là maintenant c'est ça qui m'est venu, parce que sinon je pense à Rochefort, l'audition, mais tu sais, c'est un peu la triche, une audition, il y a 15 personnes, c'est d'office compliqué, et puis, mais c'était vraiment l'enfer aussi, ça. Mais moi, c'était une fois quand je suis allé jouer à Lille au Spotlight. Donc, tu sais, j'ai fait une heure et quelques de route. On me dit que je passe premier, ça se passe pas bien, genre je bide un peu, et je retourne, et le retour, une heure et demie, oh putain, il est long, quoi. En fait, t'as tout le temps de te. Là, j'étais pas bien, genre, je fais une story avec une musique triste, donc c'est pour dire à quel point j'étais pas bien.
Genre. Ça, t'as rentabilisé.
Du coup, il y a ce truc. C'est les retours, ils sont longs, tu vois. Quand t'es parti loin et que tu bides,
qui vient de Bruxelles.
Chacun de mes bides est suivi d'une heure de trajet en voiture, un peu triste. Hein.
Après, maintenant, prochaine fois que je te vois jouer, c'est que tu bides, je penserai à ton.
Je te ramène.
Tu dors à la maison. T'auras que 10 minutes où tu pourras bader.
Tu pleures sur une période plus courte.
Non, mais il est horrible. Surtout que tu sais, quand c'est ce genre de truc, tu sais, Lille, Bruxelles, enfin, c'est des autoroutes noires. Tout droit, et t'es juste là, figé comme un ouf, comme un... à tout moment je tourne et je me plante, c'est rien à la foudre. C'est plus rien à perdre.
Ma meilleure scène, c'est dur.
C'est dur de dire la meilleure en vrai, y a pas vraiment. Ah bah si, moi j'en ai une en fait, vas-y, Forum de Liège.
Ah ouais.
Juste, pas en bon termes d'énergie, de. Donc j'avais fait la première partie de Guillermo Guise au Forum de Liège, c'était 1500 personnes, donc c'était quand même gros. Et c'était pas parce qu'en termes, en vrai, en termes de moments sur scène, de retour des rires, en fait, sur scène, je me suis dit, je m'attendais à plus de rires, je m'attendais à entendre plus, tu vois.
Et après, pourtant, ça a bien ri.
Pourtant, ça rigolait, non, ça a bien marché. Et en fait, là, par contre, où j'ai pris une claque, c'était à la fin, quand les gens, ils ont applaudi pendant, genre, vraiment, j'ai la vidéo, c'est 30-40 secondes, et c'est très long, et t'as 1500 gens qui applaudissent. Et là, j'ai vraiment senti une émotion, et je me suis dit, ah, ok, c'est vraiment, c'est la première fois, je crois, que j'ai eu une émotion sur scène, où je me suis dit, ok, là, c'est peu stylé. Et par contre, autant t'es très haut à ce moment-là parce que t'as vraiment t'as les gens ils gueulent ouais machin, ils comprennent en fait, ils, les gens ils captent que t'es en train d'être ému et donc ils accentuent, ils sont, on va le faire pleurer l'enculé,
toi tu vas pleurer,
ouais, c'est ça, c'est vraiment
on
ça.
A un job ce soir,
c'est comme dans les concerts quand tu vois le chanteur il regarde et tu vois qu'il commence à pleurer, les gens ils ça les touche tu vois, et du coup là je commence à être ému et tout, et par contre le switch quand tu sors de scène et que tu te retrouves solo dans ta loge, elle est hard, genre tu vois je me suis vraiment posé devant mon miroir et j'étais tout seul et genre
tu peux parler,
alors non mais en vrai t'as quand même tout ce truc de te dire ok bon en fait je vais m'attendre à ça dans ma vie, ce sera ça quoi, ça va être des moments très très hauts suivis de moments très bas et ce sera comme ça tout le temps tu vois, et il faut s'y habituer donc
c'est pour ça qu'il faut relativiser ce que tu reçois aussi.
Ouais, c'est ça, faut pas. Mais après, c'était la première fois, toi. Donc,
oui, bien sûr.
Oui. Faire, tu... Waouh, c'est
une
énorme.
Une fois que tu auras fait un zénith tous les jours de la semaine, tu diras.
Bon, oui, voilà.
Oh, vous savez.
Ça va, vous savez.
Ça va.
Moi, ma meilleure scène, c'est dur. Attends, je réfléchis. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai kiffé. Il y a plein de scènes que
j'ai.
C'est
pas un KCT ou un truc, non?
Que j'ai kiffé. Bah, le KCT, j'ai toujours des bons souvenirs parce que je me dis. En fait, c'est un projet qu'on a créé, nous.
Ouais.
Et où je donne de la force à des. Enfin, genre, le KCT à Alma, c'est pas pour rien que j'en ai parlé, mais. Là, j'étais vraiment genre content quoi de voir 300 ouais, personnes dans une ouais, salle et voir genre des copains, tu sais, il y avait Cérine, il y avait Ino, tu sais, il y avait Guise, genre tu ramènes une resta et ça se passe trop bien, tu sais.
Et tout le monde tout
se régale, gueule ouais. Et tout, puis à la fin tu as des applaudissements, machin, les gens, tout le monde est content et tu te dis waouh, ouais, c'est on a fait
y
ça.
Il y avait rien avant quoi.
On a il y avait rien, tu vois. Il y avait rien et il y a toujours rien après, tu vois. Et ça c'était cool. Après personnellement, j'ai fait des scènes où je me suis bien amusé, tu vois. J'ai fait plein de scènes où je me suis bien amusé, mais j'ai pas de souvenir.
En fait, j'ai l'impression qu'il y en a quand même
mal,
en fait, je pense que c'est dur de dire la meilleure.
Ouais.
Il y a beaucoup de scènes où c'est vraiment cool. Moi, c'est pour ça que j'ai dit le forum du Liège. En fait, il y avait non seulement les côtés cool de la scène, mais t'avais le truc en plus, tu vois, qui fait là, par exemple, c'est le petit truc en plus, c'est le côté auto-entrepreneur qui a fait que c'est toi qui a monté le projet, tu vois. Du coup, je pense que c'est ça. Toi, tu dirais quoi, ton meilleure scène?
Moi, la meilleure scène, c'est j'ai joué le spectacle que j'avais, sur le sentiment de faire son spectacle. Ouais, c'était. Ouais. Étant ultra fan de stand-up et de vraiment le format spectacle, de regarder un DVD et de regarder un humoriste sur un spectacle, pouvoir le faire, et ça s'est vraiment très 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 bien passé. Bon, il y avait énormément de gens que je connaissais, genre
oui.
90% des gens dans la salle, c'était des gens que je connaissais, donc c'était déjà acquis, ça riait fort, et ce sentiment était assez ouf, quoi. C'est pour ça que mais encore une fois, je le choisis parce qu'il y a un truc qui change par rapport aux autres scènes.
Ouais, c'est ça.
Sinon, j'ai l'impression que ta meilleure scène, c'est toujours la dernière où ça s'est très bien passé.
Ouais.
Tu vois, j'irais.
Ouais.
Mon meilleur plateau maintenant, je dirais, c'est la première partie de Lorenzo jeudi passé, parce que c'est super bien passé par exemple. Mais la fois d'avant, je t'aurais dit le Comedy Cat il y a deux semaines, tu vois.
C'est vrai que c'était cool. Moi, j'ai un souvenir où là, c'était vraiment particulièrement bien passé et j'étais content parce que sur le line-up, il y avait quand même des artistes que je respecte beaucoup, genre Dena, Florent et tout. Et ça, c'était très bien passé. C'était sur le plateau de Fabio à Waterloo, où là, tu joues, c'est 16 minutes, je crois que tu joues.
C'est hyper précis.
16 minutes, ouais, c'est précis. Je sais pas pourquoi. Non, et c'est trop cool. Enfin, ça c'était hyper bien passé. C'est genre 120 personnes dans un espèce d'ambiance café-théâtre. Genre vraiment, c'était trop bien. C'était ouf. Et sinon, assez marrant, parce que j'y repense maintenant. Mais quand j'étais à Paris, j'ai joué devant 5 personnes. Mais vraiment 5 personnes.
C'est horrible.
Et dans les 5 personnes, il y avait 3 potes à moi. Que je connaissais pas vraiment. Parce qu'en fait, j'étais là pour le boulot à Paris. Et on discutait. Ils m'ont dit, ah, mais tu fais du stand-up? Je fais, ouais, bah, ce soir, je joue. Moi, je savais pas où j'allais arriver. C'était un plan qu'on m'avait refilé, nanana. Et j'arrive. Et du coup, 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, il y a un mec qui parle pas très bien français. Il est hispanophone, mais genre, il comprend, mais.
Ouais,
la subtilité de l'humour, c'est difficile. Donc il y a genre 5 personnes, un gars qui parle pas vraiment français, 2 personnes c'est mes potes, tu vois, genre ambiance. Et j'ai trop kiffé. Parce que je me suis vraiment dit, en vrai c'est pas grave.
Ah,
et
ouais,
on s'amuse
ouais,
entre nous. Kiffé, ouais. Et ouais. C'était marrant. Après, sans doute que je reconstitue l'histoire pour pas avoir de PTSD, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Post-traumatic syndrome, ouais, ouais, voilà. Mais non, c'était cool.
Et vous avez tous les deux rempli le rôle de MC. Ouais. Nikos, tu fais MC à la Brouette sur la Grand Place de Bruxelles.
Mm-hmm.
Toi, tu le fais au Black Sheep.
Ouais.
Est-ce que c'est un rôle que vous aimez prendre et qui vous fait du bien, qui vous fait progresser?
Moi, j'aime bien. Après, maintenant, parfois, j'ai un peu la flemme en vrai. Parce qu'en fait, quand t'arrives à une soirée, tu dois venir, t'es un des premiers qui arrive, t'es le dernier qui part, tu dois monter sur scène, tu dois être ouais, vraiment de 19 à 23, t'es occupé quoi, tu vois. Genre, tu dois monter, tu dois gérer tout. Bah, après, c'est le principe, hein. Mais genre, c'est quand même un peu épuisant. Puis moi, je prends vite la responsabilité de la soirée. dans le sens où je me dis putain si ça se passe mal c'est ma faute, alors qu'en vrai genre en fait c'est aussi la responsabilité des humoristes de faire un bon passage. En fait c'est normal, le présentateur il doit mettre les bases, dire qu'il faut applaudir machin, expliquer le concept aux gens qui connaissent pas, dire couper ses téléphones, voilà il va faire tout ça, après il chauffe un peu le public, après c'est un peu aussi up to les humoristes de juste faire son set, être drôle et être efficace, et si le public est un peu plus froid de le chauffer aussi, c'est aussi le taf d'un humoriste en fait. Et donc moi parfois j'ai tendance à oublier ça et me dire non c'est moi, si là ça se passe mal c'est de ma faute. Genre j'ai eu ça une fois à la brouette là il y a pas si longtemps. Putain, c'était l'enfer. Je commence. Et normalement, franchement, la brouette, il y a une bonne ambiance. Ouais. Moi, en tant qu'MC, j'attise vite la sympathie du public et tout. Et donc, ça se passe généralement bien. Et là, ça commence. Et il y a à chaque fois des petites couilles qui se passent, des petits trucs, hein. Le micro, le. Et puis après, il y a des gens sur scène au tout début
qui parlent.
On a une interaction hyper chelou, donc ça refroidit un peu le public. Ils se disent, oh, on est où là? Et puis, il y a deux personnes, je leur parle comme à Avignon. Je leur parle et ils me disent, non, mais vas-y, fais ton truc, on est venu ici pour rigoler. Et je suis là, ok. Et du coup, moi, je commence à être désemparé. Et je savais pas gérer la situation. Et du coup, je commence à essayer. Le public, il est froid, seul, j'arrive pas à m'en sortir. Et c'est celui-là en mode, en fait, je sais plus quoi faire. Genre, c'est la première fois que je me trouve dans une situation où je suis bloqué, je sais pas comment chauffer le public, quoi.
Moi, j'étais à la régie, qui est à côté, et il a vraiment tourné sa tête en qu'est-ce que je fais? Et moi, je fais, c'est ton boulot.
Là, moi, j'étais juste en mode, bon, c'est baisé, quoi. Et donc, j'ai envoyé le premier. Je savais, je l'ai envoyé sur un beat, quoi.
C'était Nathan, justement, qui m'avait invité au Boudu.
Ok.
Le pauvre. Je l'ai envoyé sur un beat.
Ah, le pauvre.
C'était sûr. Je crois que je lui ai même dit désolé en passant le micro, quoi. Et les deux premiers ont pris un beat.
Désolé. Ouais, c'est ça. Et c'était deux personnes qui venaient pas de Belgique.
Oui, c'était deux personnes.
Un français et une québécoise et.
Et en fait, on leur avait tous vendu la brouette, t'inquiète, c'est un beau lieu, la grande place.
Grande place, t'inquiète,
Après, ils ont pris un tunnel, genre, et moi je vois ça et je me dis, ah, c'est ma faute. Et,
alors qu'ils sont drôles, tu vois.
Les conditions faisaient que c'est compliqué, quoi. Ça pour dire que MC, oui, c'est cool, mais ça a des responsabilités et du coup, il faut savoir les prendre.
Et toi, Julien?
Moi, j'adore, mais j'ai fait un travail personnel pendant les vacances ici où je me dis que la façon dont on fait MC en Belgique est pas la meilleure, je crois. Donc l'année prochaine je vais changer ma façon de faire MC, donc je vais plus repasser entre les artistes.
Il va faire nu.
Ouais, exactement. Je vais plus repasser entre les artistes, je vais faire au début, avant la pause, après la pause, puis à la fin pour encadrer la soirée, mais vraiment pas passer entre les artistes parce que je trouve que j'apporte rien à ce moment-là en fait. À partir de la couverture, qui parfois est une volonté assez normale en fait, c'est genre quand t'es à l'aise en interaction, parler aux gens, machin, et je trouve que ça apporte pas grand-chose. Okay. Mais c'est un exercice que j'aime bien parce que moi, contrairement à Nikos, j'ai un peu ce côté contrôle freak où je kiffe bien le fait justement d'arriver tôt, partir, être sûr que ça soit carré, tac tac, les gens ont passé une bonne soirée, les gens disent ah j'ai trop kiffé machin, le public, les humoristes, ça j'aime bien. Et le faire au KCT aussi, c'est cool. Par contre, au KCT, on gardera le format plus traditionnel pour introduire les gens, parce qu'on est dans des soirées plus gala, machin.
Non, je suis d'accord, moi je vais aussi prendre ce format sur la brouette, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, de ouvrir, clôturer la première partie, ouvrir, clôturer la deuxième partie.
Mais je trouve que c'est un format qui marche bien quand la soirée se passe bien.
Mais même si ça se passe pas bien.
Mais non, mais encore une fois, c'est la même chose.
Mais quand ça se passe pas bien, des fois tu peux redémarrer. Tu vois, si t'as vraiment quelqu'un
qui t'imagines la responsabilité que tu mets sur le MC.
C'est exactement ce que je disais avant.
C'est un truc ouf, tu vois.
Ah oui, tu mets plus de responsabilité sur le MC, mais des fois il peut récupérer un truc qui était vraiment compliqué. Imagine, il y en a un qui fait un passage, c'est un beat complet où il dit des trucs que tu dis. Je peux pas accepter qu'on dise un truc pareil.
T'as déjà entendu des MC dire vraiment j'accepte pas ça?
Ouais.
Et qui baise l'ambiance?
Non, quelqu'un qui vient de passer, quelqu'un vient de passer, il vient de dire un truc genre qui est homophobe, qui est raciste ou quoi, et le gars il dit, il était obligé de monter sur scène pour dire, ce qu'il vient de dire, on n'est pas d'accord avec lui spécialement, on sait pas ce que les gens font. T'es obligé de dire ça. Sinon,
c'est raciste, machin.
Sinon, t'as des gens du public qui pourraient se dire.
Je sais pas, c'est franchement.
Après, c'est rare.
La seule personne que j'ai vu faire, c'est Bilal qui a fait ça une fois. Mais là, c'était nécessaire. Vraiment, là, c'était nécessaire, tu vois. Mais
après, théoriquement, là, c'était parce que Bilal, il fait les scènes ouvertes et les
scènes ouvertes.
Oui. En fait, tu peux pas arriver dans une soirée et avoir des propos racistes. Si c'est le cas, pourquoi cette personne est programmée? Pourquoi elle l'a encore?
Oui, mais tu peux pas savoir ce que tu vas jouer. Tu peux avoir un sketch qui est nickel et après, tout d'un coup, tu te prends un.
Tu deviens nazi. Moi, ça met trop de responsabilités. Genre, la fois passée, j'étais au Black Sheep. Il y a un artiste qui fait un peu du test, machin. Et ça se passe bien, tu vois, mais l'ambiance, c'est pas au paroxysme, tu vois. Et donc, moi, je remonte sur scène et je dois, soi-disant, rechauffer pour que l'artiste d'après, il réarrive dans des souliers. Non, frère, l'artiste d'après, c'est InnoJP. Je veux dire, il a plus de talent que moi, le garçon, tu vois. Il sait faire ce boulot-là. Il sait, en une minute, aller faire trois vannes et paf, et il reprend les gens, tu vois. Alors que moi, t'es en...
Pour moi, c'est ça. C'est en fait, ce que je disais avant, c'est que on prend une responsabilité de l'ambiance de la soirée qui en fait est aussi la responsabilité des humoristes parce que c'est eux qui sont là pour faire des vannes. Nous théoriquement on doit juste présenter. Ouais. C'est ça qu'on nous demande, c'est on nous demande d'introduire les trucs, d'annoncer les artistes, mais on nous demande pas spécialement d'être drôle en vrai. Mm-hmm. Parce que quand on fait des vannes et qu'on fait des impros, souvent on est reproché de même toi t'es présentateur. Ouais. Et donc pour moi juste l'humoriste il passe après un beat, frère c'est ton problème en fait.
Je comprends les deux en fait.
Oui je comprends les deux, mais en plus au-delà de ça je trouve que les soirées en Belgique sont trop longues quoi.
Oui. Ça oui.
Les soirées sont trop longues, tu sais, genre, c'est pas pour rien que j'ai fait cette blague là quand on a fait le truc du What the Fun là, une minute trente là des artistes, où je disais que la soirée du What the Fun elle était trop longue, tu vois. Mais c'est vrai pour toutes les soirées, genre t'as 6 artistes, t'as un MC qui passe entre,
t'as une pause au milieu.
Oh là, mais c'est long, hein.
Normalement 10-15 minutes, mais qui ont duré en vrai 25.
Être le dernier, c'est censé être le meilleur rôle, la vérité. Le meilleur rôle, c'est pas le dernier, hein, quand t'as des soirées qui. Quand tu joues à 23h30. Alors que la soirée elle a commencé à 20h30
et que les gens sont là depuis 20h.
Moi je suis pour que les soirées soient plus courtes, comme ça il y aura plusieurs scènes par
jour. Mais exactement, en fait, on préfère un truc d'une heure et qu'après.
Mais ça, le problème c'est qu'à Bruxelles ça marche pas. Parce que les gens sortent vraiment de chez eux, ils veulent passer une vraie soirée.
Oui, mais faut
Black Sheep, au Black Sheep, impossible de faire une soirée d'une heure, les gens viennent bouffer, les gens viennent machin, tu vois. Mais tu peux faire une soirée d'une heure trente qui soit correct, tu vois. Ouais, où les gens restent après, ils boivent un verre, ils boivent machin, et ils ont eu leur moment stand-up, et, puis, ouais. Et ils profitent, ça profite à tout le monde, ils vont consommer davantage, ils vont rester parce qu'ils vont se dire, oh, mais il est que 22h30, ça va. Ouais. Par contre, s'ils voient qu'il est 23h30, t'inquiète qu'ils rentrent chez eux,
ouais, c'est sûr.
Si vous aviez un point en particulier à améliorer dans votre stand-up, ce serait lequel?
Tout.
Mais peut-être un plus que les autres. Je veux dire, d'office en stand-up, tu dois toujours progresser dans tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment un truc qui est plus faible? Par exemple, ça peut être l'écriture, ça peut être le jeu, ça peut être la gestion de la salle.
C'est l'écriture pour moi.
L'écriture
est l'axe des trucs. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est ficeler une manière de dire mes choses, tu vois. Okay. Donc, où en fait, j'ai des passages de mes sketchs qui sortent de la même manière à chaque fois, la même intonation, même rythme et tout. Mais la plupart des trucs, en fait, les transitions, les moments un peu, c'est un peu, je le fais au feeling avec les gens. Donc, ce qui donne bien parce que, ça donne vraiment un côté d'impro parce qu'on dirait que je le sors comme ça, parce qu'en fait, je le sors vraiment comme ça. Je sais où je vais, mais je sais pas comment.
Faut être positif, ça.
C'est positif quand ça marche, mais quand ça marche pas, t'es en mode, j'aurais dû écrire.
Ça marche aussi pour le texte écrit. Positif quand
oui,
ça marche.
Oui, c'est vrai, mais souvent, je sais que, en fait, avoir un texte ficelé de ouf, ça te permet d'être rythmé, d'être, tu sais, de vraiment calculer tes silences, quand il va et tout. Et du coup, je pense que c'est quand même un truc important que je devrais, que je suis en train de faire en fait.
Et toi, Julien?
Moi, je dirais l'écriture de blague, au sens la blague, vraiment
la blague, quoi.
L'idée de ce truc qui est théorisable, tu vois, dans l'humour. Ça, je pense que ce serait un point. J'aimerais bien réussir à écrire des one-line, tu vois, genre, même si c'est pas l'humour qui me touche. Parce que moi je suis pas dans ça, mais je trouve ça très fort les gens qui y arrivent, tu vois. Genre en deux lignes, ils ont une blague, tu vois. Ça, je trouve ça très fort. J'aimerais bien réussir à faire ça. Après, si j'y arrive pas, j'y arrive pas, mais j'aimerais bien travailler ça. Et sinon, je dirais, c'est marrant parce que je suis pas très stressé, mais je me laisse très vite déstabiliser. Ouais. Donc, je vais rentrer sur scène et très vite, genre, j'ai une blague que je fais toujours au début de mon set. Si ça rigole pas fort, je sais que le passage va pas aller, tu vois. Et ça, c'est que dans la tête. Donc, je dirais ma gestion de. Enfin, moins me laisser déstabiliser. Parce que quand je me laisse pas déstabiliser, j'arrive à, tu sais, surfer sur les rires. Et là, ça part, tu vois. Mais très vite, je me fais déstabiliser.
Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour?
Le moins, ce serait le côté. Tu sais, en fait, au début, quand tu dis que tu veux faire humoriste, en fait, c'est très vu de manière. Tu sais, quand on te fait une blague et tout, t'es en mode, c'est pas que ça, tu vois. Genre, je sais pas, il y a un truc qui s'est pas pris au sérieux. Et l'autre truc, c'est que, en vrai, ça baisse le cerveau, quoi. Je veux dire, dans le sens où moi, maintenant, depuis que je suis stand-up, je pense au stand-up tous les jours, tout le temps. Et en fait, les gens ne se rendent même pas compte que dès que je fais quelque chose, dès que je pense à quelque chose, j'essaie de le théoriser en vanne ou j'essaie de le comprendre. Je me dis, ok, est-ce que ça peut être une vanne? Est-ce que, tu sais, vraiment, et constamment.
Mais ça, je pense que c'est un problème qu'on grossit, nous, en tant qu'humoriste, et on se dit, oh mon dieu, c'est tellement dur.
Non.
La vérité, je pense que c'est juste parce que c'est devenu ton boulot.
Franchement, je sais pas parce que
tu sais, il y a plein de gens, ils ont des boulots hyper prenants.
Oui,
genre,
oui.
Tu sais, où ils vont se dire, ah ouais, il faudrait peut-être que je fasse ça comme ça, machin. Enfin, tu sais, ma mère, par exemple, elle est avocate, mais elle pense à son boulot tout le temps.
Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi, il y a ce truc, en fait, quand.
C'est juste une charge mentale liée au fait que t'es pas employé, en fait.
Ouais. Non, je suis d'accord.
Il y a aucun moment où tu peux, genre, fermer ton ordi et dire, je m'en fous, tu vois. Ouais, quand tu fais une thèse, bon, moi, je la prends pas autant en sérieux que certains de mes collègues, mais quand tu fais une thèse, j'ai des collègues à moi, ils sont tout le temps dedans, tu vois.
Ouais, je pense que quand t'es vraiment attaché à ton boulot et que ça te tient vraiment à cœur, oui. Mais par exemple,
c'est lié à la passion.
C'est ça.
Oui.
Mais par exemple, moi, j'ai le stand-up et je suis prof. Je sais que
je suis d'accord.
Mon côté prof prend une part de mon attention, moins, de mon esprit minime, parce que c'est moins ma passion, parce que c'est moins ça que je veux développer.
Bien sûr, mais est-ce que c'était le cas au début de ta carrière de prof?
J'ai toujours eu le système de
Ah, c'est marrant. Mais je pense qu'effectivement, c'est un problème qu'on va exacerber en mode comme si les autres ne pensaient. Parce que parfois, j'entends les gens dire.
J'aime pas cette différence entre, tu sais, un peu genre artiste, machin et tout ça. Ça me saoule. Mais c'est plus vraiment, j'ai remarqué. Après, c'est peut-être vraiment juste à titre personnel parce que juste je réfléchis beaucoup pour l'instant sur des trucs. Genre, juste ma tête. Je pars beaucoup dans des délires tout seul. Mais vraiment, quand je suis dans le métro, quand je fais des trucs, tout, j'analyse, je regarde tout le monde. J'essaie de voir des trucs. J'ai mon tel, je sais pas combien de notes. Genre, je peux être occupé à faire un truc, je dis quelque chose, je prends mon téléphone. Enfin, tu sais, c'est un truc non-stop.
C'est quoi ta dernière note?
Pour l'humour?
Ouais.
Parce que je crois que j'ai écrit un truc de rap. Une vanne, je crois. Attends, quoi?
Ouais, parce que là, on est en 2022. Le jour où Nico sera percé, il fera un album de musique.
Normalement, ouais.
Je te préviens.
Je sais pas pourquoi j'avais écrit, ça me faisait rire l'idée. J'ai dit, j'aimerais sortir avec une meuf qui a une mère psy pour pouvoir lui dire j'ai trompé ma copine, secret professionnel. Juste donner l'info à la mère et dire tu peux rien dire, frère. Sinon,
c'est drôle.
C'est drôle.
Voilà.
Moi je la garde.
Et attends, je te dis, est-ce que j'ai écrit d'autres trucs? Mais... Ah, ça c'était un truc. Je m'étais fait l'impression que j'étais allé en festival à Ronquière là. Et je me suis dit, putain, si on part pendant que les têtes d'affiche jouent, il y a personne dans le parking et on part direct. Oui. Et je me dis, c'est trop rigolo de... Moi je vais à un festival pour voir les têtes d'affiche et le moment, ce qui va plus me procurer du plaisir, c'est pas de voir la tête d'affiche, c'est de partir au moment où tout le monde la regarde en me disant hey, j'ai niqué tout le monde.
Ok,
pas du tout.
Ah, je trouve ça drôle aussi.
Je trouve ça rigolo, du coup j'ai noté.
Du coup, Juan, c'est quoi ta dernière note? Parce que t'as fait le rôle d'animateur en prenant un parti.
Sa dernière note, c'est deux putes qui rentrent dans un bar.
Cancel.
Ah, ça part.
J'ai ma toute dernière note et je l'ai envoyée à Sacha. J'ai une vanne où je dis que mon père a des mains très grandes. Enfin, physiquement, mon père a des mains très très grandes. Et en gros, j'avais une vanne où je disais que. Une vanne assez facile, vraiment en bateau, où je dis que mon père, il te met une claque, tu changes de fuseau horaire. Vraiment juste pour imager le truc. Mmh. Et j'étais à l'aéroport et j'ai vu les avions portugais, parce que du coup, mon père est portugais. Et la compagnie aérienne du Portugal, ça s'appelle la TAP. Et en fait, je me suis dit que c'était gaulerie d'imaginer qu'en fait, les mains de mon père, elles avaient inspiré le nom de cette compagnie aérienne, parce qu'il te fait voyager juste en te claquant. T'sais. Voilà, c'est ça drôle. La dernière note dans l'esprit. Mais bon, j'ai pas réussi à la formuler, je suis pas sûr que les gens aient la rêve de la tape, mais bon.
Et l'autre office pas, en fait, faut réussir à la placer avant. Ouais. Mais il y a moyen, ouais. Mais c'est ce genre de bonne, tu sais, l'idée, c'est trop drôle et tout, et ça marche, et en fait, faut voir si t'arrives à la donner à la public avec la cape, quoi.
Et toi, c'est quoi ta dernière note, Régis?
Moi, ma dernière note, je le sais parce que je l'ai relu tout à l'heure, c'est quand j'étais en Erasmus avec ma copine avant qu'on soit ensemble. Je dis, j'étais déjà amoureux d'elle, et du coup je dis, on faisait tout ensemble, on faisait les courses ensemble, on allait au cours ensemble, on marchait ensemble, on se baladait ensemble. Ce truc que je faisais tout seul, c'est être amoureux d'elle. Ça, je faisais ça tout seul. J'aime bien l'idée. Voilà, ça c'était ma petite note.
Ah bah elle est top.
Merci. Je la garde.
On n'a pas dit les trucs positifs.
Non,
c'est vrai. toi, t'as dit ce que t'aimais le moins.
Moi, je l'ai pas dit. Qu'est-ce que j'aime le moins? Je pense que ce que j'aime le moins.
Bidé?
Non. Je crois que ça implique très fort l'ego, mais pas au sens forcément négatif. Hein. C'est même mon ego à moi, il est impliqué. Et du coup, moi, j'ai très peur, tu sais, que ça parle, que machin. Et en vrai, on fait aussi partie du problème, tu vois. Mais c'est un milieu où, en fait, on a besoin d'être assuré. Et du coup, je crois que c'est ça que j'aime le moins, tu vois.
Okay.
Et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui d'avoir des vrais amis, tu vois, dans le stand-up. Genre vraiment des amis où, du coup, par exemple, on se fait des vrais retours, on est sans que ça fasse peur, tu vois.
Okay.
Je crois que c'est ça qui me fait le plus peur. Mais c'est un problème tout à fait naturel et je crois, pour en avoir discuté avec d'autres humoristes, qu'en fait, c'est propre à tous les groupes sociaux, quoi. C'est pas. Sauf qu'ici, nous, notre caractéristique en plus, c'est que. On se met en danger tout seul et donc on a l'impression que c'est notre personne à nous, alors qu'en fait pas du tout, c'est notre travail et c'est pas nous en tant qu'humain, quoi.
Arriver à distinguer les deux, quoi.
Ouais.
Mais l'artiste finalement.
Ouais. Oui, mais pas quand il s'agit d'agression sexuelle, par exemple.
C'est ça.
Voilà, pas quand c'est pas bien.
Et du coup, j'aime bien la petite conclusion. C'est vrai que ça, c'est pas bien.
Ça, c'est pas bien.
Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de faire de l'humour?
Moi, j'ai quand même, en vrai, c'est comme une chance de bâtard de enfin, putain, faire rire des gens, tu vois. Genre, c'est ouf. En vrai, quand ça marche et tout, tu te dis juste, là, par exemple, l'année prochaine, moi, je vais vivre de ça. C'est quand même ouf de se dire que t'arrives à dégager de l'argent avec le fait de faire rigoler des gens, tu les fais passer un bon moment et c'est ta passion et c'est cool quoi. Rien que ça, c'est quand même une chance de ouf d'avoir eu le privilège et l'opportunité d'avoir pu se lancer dans sa passion, tu vois.
Ouais.
Rien que ça, c'est vraiment grosse reconnaissance pour mon capital de naissance. C'est comme ça que j'ai appelé ça, le fait de naître avec des avantages. Voilà.
Moi, je crois que c'est rencontrer des gens. Je crois que c'est vraiment rencontrer des gens. Je trouve ça trop cool. Parce que quoi qu'on fasse, même si l'humour de la personne nous touche moins ou voilà, il y a quand même un propos qui est dit quoi. Je trouve ça hyper cool de rencontrer des gens. C'est pour ça que genre mon but l'année prochaine, ça serait d'aller dans des genre à Nantes, d'aller à Marseille, d'aller rencontrer des gens quoi. Ça je kiffe trop. J'aime bien
aussi,
j'aime bien rencontrer des humains et des humaines. Ça je kiffe trop. Ouais.
Okay. Surtout des humaines hein.
Non.
Juste pour.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière?
Bah percer, hein. Avoir une carrière déjà, ça serait top.
Je dirais être meilleur.
Ouais, en vrai.
Progresser.
Okay. Moi, je pense ouais. C'est
être déçu du mois d'il y a 6 mois, tous les jours.
Ah. Ça et ouais, moi j'aime bien le côté continuer à peut-être
toi,
à s'en mettre en question. Ok, je un max de thunes. Je consigne. Non, mais ouais, je pense en fait continuer à s'améliorer, toujours être avec soi-même et ouais, et, en fait juste progresser, continuer, en fait. Continuer à progresser constamment parce que je pense que c'est un milieu qui demande que ça. Donc,
copier. Ok.
Ouais, j'aime bien.
Bah, je vous le souhaite en tout cas.
Ouais, c'est gentil.
Et on va passer maintenant à l'interview name dropping.
Wouh, j'aimerais ça moi.
Et donc, je vais vous demander à chaque fois de me donner un humoriste par catégorie. Ça peut aller dans tous les sens, français, québécois, suisse, serbo-croate, okay. Ce que vous voulez. Okay. Mais une personne pour chaque catégorie, s'il vous plaît.
Ah, une personne chacun.
Oui,
on doit se concerter.
On doit se concerter.
Ça, c'est bien.
Je le trouve nul.
Quel est l'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré?
Florent Lasson.
Bien sûr.
On n'a pas besoin de se concerter. Ça.
L'humoriste qui vous inspire ou qui vous a inspiré le plus?
T'entends quoi par inspiré? Les vannes qu'on a volées.
Bah, il y a plein de sens dans inspirer, c'est qui t'a donné envie ou qui te donne envie de progresser. Par exemple, moi, un Nadib Alkhalidé m'inspire de ouf parce que je me dis, je veux trop avoir son niveau et arriver à avoir des angles et des trucs, des propos intéressants comme lui, par exemple. Donc, ça m'inspire dans ce sens-là. Mais je me dis pas que je vais faire ses vannes, tu vois. C'est pas du tout que je veux dire par inspirer, quoi. Ni piquer son style, du tout.
Ouais.
Moi, j'ai Guillermo Guise et Roman Frécinet, j'en donne deux, les deux l'aiment.
Moi, je pense que Gad Elmaleh m'a beaucoup inspiré quand j'étais gamin, tu sais, genre sur scène, le fait d'exister comme as, c'était ouf, vraiment. Ça pour moi, ça c'est sans comparaison, je crois. C'est celui qui m'inspire. J'aime beaucoup l'aspect auto-entrepreneur de Farid.
Ok, ouais.
Genre pour moi, on oublie trop souvent que en fait, il a pas 50 ans en fait,
ouais,
et qu'il a déjà
30 beaucoup.
Ouais, non, il a un comedy club de ouf. Il a fait des spectacles de ouf. Il a dit non à des gens. Enfin,
c'est le premier humoriste français à avoir signé un special sur Netflix.
Ouais, ouais non, mais c'est même artistiquement, je trouve ça trop. Enfin, c'est énorme. Ouais, je dirais.
Ouais, c'est vrai. Mais alors, pour revenir par contre, parce que si on parle d'inspirer aussi pour les débuts, parce que Guillermo Guise et Ron Christine, c'est maintenant que je connais et que je vois, tu vois. Mais en vrai, Kev Adams, c'est celui qui m'a le plus inspiré au début.
Ok.
En fait, je me suis hyper identifié à lui de voir un jeune sur scène, de faire des blagues d'ado et tout, et tu vois. Puis il avait une bonne vibe et tout, donc moi ouais, c'était vers ça que je m'étais inspiré. En fait, tu sais, au début, moi je savais pas que c'était autant mal vu de bien aimer Kev Adams. C'est vrai, en fait, une fois que tu
vas dans le milieu. Il y a une période où ça l'était fort, maintenant je retouche.
C'est facile de cracher sur les gens qui ont du succès.
De ouf, ouais. Et parce qu'en plus, surtout, t'es mon frère, enfin, c'est une star, tu vois.
L'humoriste qui pour vous écrit le mieux?
Guise.
Ben moi j'ai vu un spectacle de Anna Gatsby. Mm-hmm. Le Nanette,
ouais,
c'est bien,
je trouve très très fort parce que c'est autant très drôle et autant parfois tu vois que c'est la vraie déclamation qu'elle interprète super bien et qu'elle vend de ouf. Et t'es en mode ok, donc t'as été hyper dans l'énervement et maintenant tu passes à la comédie. Et donc pour ça, il faut une technique d'écriture de fou. Et parce qu'en fait, tu vois que parfois quand elle dit des passages de son spectacle, c'est comme un discours politique dans le sens où il y a des répétitions bien choisies, c'est vraiment de la déclamation et c'est très bien écrit. Donc moi je trouve que en termes d'écriture, elle m'a surpris sur ce spectacle là j'ai pas vu d'autres, donc je sais pas dire.
L'humoriste qui pour vous joue le mieux?
Richard Pryor.
Baptiste Caplan?
Non, Richard Pryor.
Non, qui?
Richard Pryor.
Je connais pas. Oups, sorry.
Si ça vaut le coup d'aller voir.
Ouais.
Ou Alex Lutz.
Oui, Alex Lutz.
C'est fou. C'est pas vraiment stand-up Alex Lutz, mais Alex Lutz, c'est fort.
Bah ouais,
mais
quand tu dis joue, c'est humoriste, hein,
donc ouais, c'est trop. Moi,
quand tu dis joue, c'est un qui interprète, qui vend.
Qui interprète, qui vend ses vannes, quoi, le mieux, quoi.
Ok.
Après, moi, je trouve que tous les humoristes
ça,
qui arrivent à te faire croire qui te raconte une histoire pour la première fois, c'est qu'il est arrivé à un niveau de jeu. En fait, quand il te fait croire que c'est facile, c'est qu'il est arrivé à un niveau de jeu de ouf, tu vois. Oui. Genre, j'ai été voir le spectacle de Redouane Bougueraba. Et en fait, j'avais entendu plein de choses sur le spectacle. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'impro que ça. En fait, il n'y a pas autant d'impro qu'on l'imagine. Il est très fort en impro. Mais en fait, quand il te raconte ses blagues et ses histoires et tout, t'as l'impression qu'il te raconte ça comme si t'étais un pote, en fait. Alors que tu sais, toi, en tant qu'humoriste, que c'est pas le cas, tu vois. Et donc là, pour moi, il y a un niveau de jeu, tu vois. Enfin, okay.
D'office, j'avoue, vraiment,
genre, Richard Pryor, ouais.
Pour partir là-dedans, je dirais aussi peut-être Gad Elmaleh, en vrai. Parce qu'en vrai, on a beau dire ce qu'on veut, mais genre.
Ouais, c'est fort. Hein.
Il joue. Je l'ai vu deux fois en spectacle à Forêt, ouais. Et bon, déjà, c'était pas la même chose à chaque fois, donc c'est fou que devant. En fait, lui, un Zénith, c'est devenu une scène normale où il va adapter des petits trucs, il va oublier une vanne de temps en temps. Enfin, c'est ouf à quel point c'était pas vraiment à 100% la même chose. Mais moi, je l'ai revu jouer au Paname. Ouais, il était venu jouer, passer au Paname. Il a fait un passage de son spectacle et il l'a vendu. On aurait vraiment dit qu'il racontait ça en impro. Et tu sais, il rigolait, il mettait son micro comme ça sur sa cuisse et il se marrait vraiment. Je dis, frère, t'as dû répéter ce truc, mais 1000 fois. Et il le vend toujours comme si c'était la première. Et je me suis dit, ok, d'accord, en fait, on doit pas être lassé de ces textes et on doit vraiment les vendre. Tu dis, personne n'a entendu ce que je viens de dire, je le vends comme si c'était la première. Et là, moi, j'ai quand même pris une petite claque en voyant ça.
Un humoriste qui vous a surpris dernièrement?
À l'open mic de Bilal, j'ai vu un gars qui s'appelle Félix. C'était sa 4e scène et il a fait un truc que j'ai pas vu à Bruxelles encore. Et c'était ouf, vraiment c'était ouf. 4e scène et bon, tu sens qu'il y a plein d'imperfections de la 4e scène, hein, mais vraiment c'était fou, c'était très beau, c'était très drôle. Voilà, je dirais lui. Ouais.
Moi j'ai vu Pascal aussi, je sais pas s'il écoutera, mais je l'ai trouvé très très fort parce que je crois que c'était sa 2e scène quand je l'ai vu et j'étais là waouh, j'aurais voulu être à ce niveau-là, 2e scène. Quoi.
Pascal Leçon.
Est-ce que j'étais surpris à Avignon ou pas? J'ai pas vu tellement de gens en fait.
Mais ça peut aussi être quelqu'un que tu connaissais d'avant mais qui est revenu plus fort et tu te dis waouh, ça m'a surpris à ce niveau-là quoi. Par exemple, genre Kouz dans l'épisode du Kings disait Adèle parce que quand il est revenu du confinement, il est revenu beaucoup plus fort. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà quoi.
En fait, je suis pas objectif, j'ai envie de dire Jules de Grave parce que.
Mais non, mais t'as pas surpris parce qu'on le connaît, on le connaît. Jules, on le mettra après. On fera ça pour nous plus tard.
On le dira à un moment donné. Attends, qui m'a surpris? Bon, ça devient long, je t'avoue, je sais pas.
Ah. Moi, je rajoute un truc, Céline Ayari aussi.
Okay.
À la dernière du Black Sheep, elle a fini et elle a fait des nouvelles vannes, genre du test. C'était fou, vraiment. Et dans autre chose, j'avais jamais vu Céline faire ça. Ça m'a surpris.
Ok.
Ah ben, j'en ai un. C'était hier soir, hier midi. Donc, j'ai clairement cherché dans mes souvenirs les plus proches. Donc, c'est pas spécialement ce qui m'a le plus surpris, mais ça m'a surpris. C'est Bénin.
Ouais, Bénin, il
parce que il est en train, on sait pas qu'il est en train de travailler et tout, et là il a fait un passage de son sketch qui du coup commence à être maîtrisé et il l'a vendu parce qu'on a un brunch à midi, donc c'est quand même des conditions pas faciles, et il a vraiment vendu avec son corps, il se tournait, il jouait, et donc je me suis dit bien beau gosse, tu commences à bien maîtriser ton set et tu l'as bien vendu, tu vois.
Bénin, vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent avec Adèle.
Plaisir.
Oui, son boulot.
Et maintenant, je vais vous demander de choisir entre deux humoristes.
Jules.
Et vous devez me dire.
Je vais faire la même blague. Jules.
Et vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire, mais vraiment celui qui provoque le plus de rire. L'autre, ce que vous ne choisissez pas, ne veut pas dire qu'il n'est pas drôle.
D'accord. Si, ça veut dire qu'il est
café. Juste que vous l'aimez un tout petit peu moins, mais ça peut être un 0,1%.
Ouais, pas de ceci.
Arrête de vouloir plaire à tout le monde. On sait que tout le monde a du talent. Question. Est-ce que. Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'il nous fasse rire dans la vraie vie ou pas?
Non, uniquement
sur scène.
Ah, uniquement sur scène.
Okay.
Et le c'est premier bon. Choix m'a été soufflé par Julien il y a longtemps quand je lui ai demandé que j'allais faire un épisode avec Nikos.
Je savais.
Il m'a dit de te poser la question entre Guillermo Guise et Roman Frécinet.
Une personne.
Mais du coup, il va devoir y répondre aussi puisque il est dans l'épisode.
En vrai,
moi Roman, ça me touche. Et Guise, je trouve ça trop fort.
Ouais,
moi, les 20 premières minutes de Guise dans son spectacle, c'est fort.
Mais qui est-ce qui vous provoque le plus de rire? Vous allez rire le plus.
Oh, putain, je sais pas. En vrai, j'irais peut-être en promenade Frécinet quand même.
Ouais, moi aussi. Après, on a vu tous les deux spectacles assis côte à côte. On n'a pas beaucoup rigolé quand même.
Non, on rigole pas beaucoup.
Parce qu'on était vraiment dans l'analyse, tu vois.
C'est trop marrant parce que moi, je l'ai vu au Cirque Royal, je crois, la veille de vous. Ben, moi, je pleurais. Mais moi, je suis pas du tout dans l'analyse quand je regarde. Enfin, si, je le suis, mais après.
Moi je rigole plus, c'est super chiant en fait.
Ouais.
Ah ouais.
Tu sais, moi je regardais, je suis allé voir Ségolène Mallet et j'ai ma pote qui me regarde, elle me fait genre, mais tu ne rigoles pas. J'étais, ah, oui.
Non, moi je dirais Roman.
Ouais, je dirais quand même Roman parce que moi les axes me surprennent à chaque fois. Après, ouais. Guise, très
c'est
très
bon,
fort,
c'est bon.
Ouais,
c'est
ouais
bon.
On le sait, on le sait. Enfin, il le sait, donc j'ai pas de le citer à chaque fois.
Mais moi j'ai manqué des passages du spectacle de Roman parce que je riais trop et qu'il fallait que
ah, ouais,
okay, je pleurais, j'ai arrêté des vannes. Quand j'ai revu le spectacle, j'ai fait, mais j'avais pas vu ça.
Ah ouais, t'as trop.
Mais j'étais là trop bien. Entre Shirley Soignon et Fanny Ruet.
Bah, Fanny Ruet. Ouais, pour l'instant, Fanny, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a quand même surprise, c'était quand même drôle.
Ouais, donc, Fanny.
Entre Haroun et Adib Al-Khalidé.
Adib. J'étais très vite, mais pour moi.
Je crois Adib aussi.
Pour moi, Adib, c'est trop fort. Hein.
Non, mais j'aime beaucoup Haroun aussi, mais ouais, c'est vrai que. Après, j'ai pas vu beaucoup de trucs d'Adib, en vrai, donc faudrait que je regarde, mais je sais que c'est un humour qui va plus me déclencher un rire que Haroun, tu vois. Donc je dirais ça.
Mais pour moi, Haroun, c'est.
C'est trop fort. Hein.
Trop fort aussi.
Oui, oui.
Entre Kian Kojandi et Farid.
Farid.
Entre Sacha Ferra et Lorenzo Mancini.
Jules de Grappe. Jules.
Sacha.
Ouais, moi je dirais Sacha aussi. C'est un humour qui ressemble plus en fait.
Entre Lola Destienne et Oriane Garcia.
Je crois que là maintenant je dirais quand même Oriane.
Ouais, pareil, je pense.
Je pense. Après on en parle dans 3-4 ans.
Entre Adèle et Bénin.
Vas-y, c'est trop bien ça.
Moi, ah ouais.
Je sais pas, moi, je sais pas. Tu dirais qui?
Je dirais Bénin.
Ouais, moi aussi j'aurais dit Bénin.
Je dirais Bénin juste parce que c'est pareil, en fait c'est vraiment des trucs de rythmique qui moi me correspondent plus, tu ouais vois.
Pour moi aujourd'hui il arrive à vendre son matos. En fait là récemment, je trouve qu'il a. Je pense que tu m'avais posé la question il y a genre 6 mois. Le déclic qu'Adèle a eu il y a 6 mois dont Kou se parlait, mm-hmm, en fait Bénin il aurait pu pas l'avoir maintenant. Donc aujourd'hui je dirais Bénin. Parce qu'il travaille de ouf, genre c'est tous les lundis,
ouais,
tous les lundis il a son plateau où il fait 5 nouvelles minutes, il taffe quoi.
Entre Florent Lausson et Gaëtan Delferrière.
Florent.
Oh putain, ça c'est dur.
Non, parce que Florent, les deux.
Ah ouais.
Oui, mais Gaëtan il est très fort, hein, mais faites-moi Florent.
Ah, mais franchement, j'ai.
Mais Florent, moi je vois la personne qui l'aide derrière quand il est sur scène,
oh,
et
ouais,
ça me
ouais
fait
ouais
rire, tu vois.
Je comprends, mais moi Gaëtan en fait ça me.
Une forme de candeur derrière.
Ça fait très fort rire aussi. Après, je crois que je vais peut-être partir aussi sur Florent dans le. Pareil, encore une fois, c'est une question de rythmique en fait. De juste de. Ça me ressemble plus que ce que Florent fait. Ce que je fais moi, et du coup ça me touche plus parce que bah, c'est l'humour qui me touche, quoi, tu vois.
Ouais.
Après, j'arrête pas de vanner Gaëtan sur son truc de Joséphine, j'arrête pas de lui dire que j'aime pas. Je trouve que c'est très fort et c'est quand même un sketch. C'est un des seuls sketchs que je vois qui est quasi bulletproof partout, quoi. Et j'ai dû le voir une ou deux fois moins bien marcher, mais le sketch sur Joséphine, à chaque fois qu'il le fait, je l'ai dit, mais c'est ouf, quoi.
Entre Jules Degrave et Sarah Lélé.
Jules.
Ah putain.
Quoi?
Non,
Sarah elle est très forte. Mais
Jules.
Désolé Sarah, mais Jules.
Après on n'est pas objectif parce que vraiment.
Je suis pas objectif.
Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que Jules, Sacha, Nikos et moi-même, on passe notre vie ensemble.
Ouais, c'est
clairement.
Et Jules Degrave, pour moi, et je l'ai dit à tout le monde, le jour où il sera sur scène comme il est avec nous, c'est la personne la plus drôle de l'histoire.
Il faudra. Ouais, ouais. En fait, moi j'attends. Mais c'est normal, hein, ça fait 6 mois, je crois, un an qu'il fait ça. Donc, le jour où il y a le déclic qui va être fait, parce qu'on a toujours un moment d'un déclic où t'arrives à être toi-même sur scène, tu vois.
Aujourd'hui, il est moins drôle que ça. Aujourd'hui,
moi, je sais pas.
Aujourd'hui sur scène, il fait moins rire que ça.
Non.
Mais je. Enfin.
Non, mais moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a fait.
Il
est très drôle, même sur scène, moi il fait forêt. Donc, moi je dirais Jules, je maintiens. Jules,
c'est pour toi.
Et qui est-ce que vous voudriez entendre dans le prochain épisode?
Jules.
Il y a de l'argent, on est sponsor par Jules. Qui je voudrais entendre dans le prochain podcast? Ça peut être dans des gens connus?
Bien sûr.
Ça
peut être des gens connus, pas connus, francophones, anglophones.
Bah, vrai, on a dit François FK et Talib.
Ouais, moi j'ai dit François FK et Talib, ouais, je crois que c'est intéressant de l'avoir.
C'est en contact pour le faire.
Ouais. T'as déjà eu. Oui, non, t'as déjà eu Florent et tout.
Ouais. Florent Gaëtan.
Non, bah j'arrive tard, moi.
Moi je trouverais ça très intéressant, j'y ai pensé, j'aurais jamais l'énergie, donc je te donne cette idée. C'est de revoir les gens que t'as vus, mais genre, tu sais, dans 5 ans. Quoi.
Ok, ouais.
Il y a des gens, j'aimerais savoir comment. Parce qu'en vrai, moi j'ai accepté ton invitation, seulement parce que je trouve ça marrant de me dire, ok, j'ai une capsule temporelle qui va être écoutée vraiment par 2 personnes. Personne ne va arriver jusqu'à ce moment-ci. Non, vraiment. Non.
D'ailleurs, si vous écoutez jusqu'à maintenant, notez juste en commentaire. Si, si, si.
Ça, vraiment, tu vas juste avoir les fans de ces filles.
T'auras Jules.
Merci,
non,
les gars.
Non, mais c'est juste que je sais qu'il y a des gens qui écoutent tous les épisodes
jusqu'au bout. Vous êtes très courageux et courageuse. Non, moi, j'ai accepté parce que je me dis, J'en ai parlé à Nikos. Je considère que j'ai pas vraiment de légitimité, tu vois. Genre, quand tu vois les gens que t'as interviewés et tout, frère, j'ai rien à dire, quoi. Vraiment, ma vision du stand-up, ça fait un an que j'en fais. Nul. Mais, je trouvais ça marrant de me dire, dans 10 ans, je pourrais réécouter et voir ce que le. Tu sais, un peu les interviews Billie Eilish, qui elle fait son interview tous les ans. Bon, elle sait tous les ans, et puis ça augmente à ce fuck, mais de voir ce que moi-même je disais il y a 10 ans. Et que dans 10 ans, je me dise, waouh, mais t'étais bête. Okay. C'est pour ça que j'ai accepté et je te remercie.
Avec grand plaisir. Bah, d'ailleurs, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer, d'avoir répondu à toutes mes questions. On a fini à l'heure que Nikos nous avait donné.
C'est parfait.
C'est incroyable.
Donc, ça fait 10 minutes que je dois pisser de ouf. Voilà, je te donne ça comme info pour la fin du podcast. C'est cadeau.
Je le laisse.
Bah, tu le laisses si tu veux. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. C'était très cool. Donc, j'espère que ça a plu et que c'était chouette.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.